Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, votre émission préférée, comme tous les mercredis à 20h pétante. On est méga à l'heure, je suis très très fier. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir des invités de marque, Simon. Ça fait une éternité que je t'ai pas vu.
Ouais, c'est vrai. La dernière fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était à Vivatech.
Vivatech.
2-3 ans, un truc comme ça.
Il y a 3 ans. Il y a un truc qui fait qu'on se voit toutes les Vivatech. C'est ça,
c'est Vivatech. C'est Atari, ça fait ancien combattant.
C'est vrai, c'est Vivatech en ce moment, j'ai vu le look.
Exactement. Très étrange. Et Alexandre Archambault.
Bonsoir.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est avocat.
Ça arrive à des gens bien. Il ramène à doux à condition de s'en sortir.
J'ai découvert ce que tu faisais sur Twitter.
Ouais.
Où t'es le plus actif et où tu commentes plein de choses sur l'actualité, etc. C'est accessible sans toujours l'être. Mais voilà, si le droit est un truc qui vous intéresse, notamment le droit appliqué au numérique, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est un compte à suivre. Et Simon, vous savez sûrement qui c'est déjà, bien sûr.
Arrête, Vérogien.
Ah, mais si c'est pas le cas, allez voir sa chaîne YouTube. Comment on peut décrire ce que tu fais?
Même moi, je sais pas. Franchement, même moi, je sais pas.
Moi, je t'ai découvert. Tu t'appelais même pas encore Simon.
Ouais, c'était le jeu vidéo.
Tu t'appelais le jeu vidéo.
Ouais, ça date, hein. Non, mais ouais, en gros, je parle de société, questions de société, un peu de réflexion sur le futur, technologique vite fait aussi.
Est-ce qu'on peut dire que t'es un peu le Wired français?
Ouais, mais en même temps, un article sur deux, je le trouve passionnant, je me dis, putain, ça, un jour, j'en ferai une vidéo. Donc ouais, ok, c'est un peu la même ligne éditoriale que Wired, c'est vrai.
Bah non, c'est trop bien. Donc c'est tout, si vous pouvez aller voir, c'est tous les sujets liés à Black Mirror du futur, les dérives de numérique. J'ai vu ta dernière vidéo, c'est sur le deep learning, par exemple.
Le père du deep learning, ouais, celui qui a participé à créer le deep learning, et pendant 40 ans, toute sa communauté lui chiait dessus, et à la fin, ils ont fait, tu vas devenir riche, en fait.
C'était pas super. Si mal. Et donc, vous avez la confirmation que c'est la vraie voix de Simon Piège dans ces vidéos.
Ouais, c'est effectivement.
Tu fais pas semblant. Mais je connais toi et Anonymal, où tout le monde dit tout le temps que vous faites des fausses voix. Alors qu'en fait, c'est faux.
Après, alors Anonymal, c'est quand même abusé, parce que lui, il a vraiment une voix de quadruple daron, je veux dire. après, moi, il y a la voix où je te parle en tant que pote comme ça, puis il y a aussi la voix des vidéos, tu vois. Il y a une légère différence, mais voilà.
Tu te virilises.
Exactement.
Je vous préviens, on a un programme chargé. Donc, on va parler de plein de choses liées aux réseaux sociaux, aux enjeux légaux aussi autour des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a souhaité inviter un avocat. Donc on va pouvoir parler de ça et des communautés. Donc voilà, je vous préviens, ça va être très chargé. Comme d'habitude, on n'est pas forcément le plus à l'heure en termes de préparation. Donc et en plus, comme vous voyez le petit Gabin là, est-ce que vous savez qui est Gabin?
Ouais, le petit bot.
Toi, tu sais qui c'est?
Bah ça y est, tu viens de me l'apprendre.
Ah, Gabin, c'est le robot en fait derrière la régie.
D'accord.
C'est-à-dire que les changements de caméra là que vous voyez, enfin que tu vois, ils sont faits par un petit robot en fait, ils sont automatisés. Donc voilà, on développe un logiciel en fait qui petit à petit améliore cette émission continuellement. Et il se trouve que voilà,
trop lourd ce plan.
Voilà,
on n'est pas chez Micode pour rien, je te le dis. Hein.
Non, mais c'est tout le concept de cette émission, c'est que elle se sert. Incroyable, ça fonctionne. Elle se sert comme prétexte de ce logiciel-là qu'on développe pour créer du contenu sur la propre émission. C'est hyper méta. On adore. Et donc, tout ça pour dire que on a fait des changements littéralement cet après-midi. On a push des trucs en production, comme on dit, une heure avant, ce qui est très peu conseillé. Mais c'est pas grave. Comme on est sur Twitch, on s'autorise des choses. Donc, à tout moment, ça plante. Ce qui se passe dans ce cas-là, et c'est déjà arrivé, hein, je ne mens pas, je me lève, je vous laisse parler,
okay,
raconter des choses.
Parfait.
Et moi, je me barre et je vais fixer les bugs. Déjà arrivé.
En gros, on a 5 minutes pour faire
urgence.
C'est ça, je vois très bien. Ça.
Si tu me veux du mal, tu auras l'antenne rien que pour toi.
Yes. Vivement que ça plante.
Ça va? Vous allez bien?
Bah écoutez, très bien.
C'est fatigué, quoi, mais ça va.
Ça va. Ouais. T'as fait une longue route depuis, on peut dire, tu es de Bordeaux.
En fait, je supporte, ça va se voir, je brille énormément, je supporte très peu la chaleur. Ah. Donc dès qu'il fait plus de 30 degrés, mon corps surchauffe, et c'est ça, comme les téléphones, genre.
Surtout ici, bah, forcément, tu as les LED du plateau, ouais, etc. Bah. Donc tu es venu de loin pour nous, de Bordeaux.
Ouais, je vis à Bordeaux, ouais. Je fais souvent des allers-retours à Paris, mais c'est ce qu'on disait avec le Covid, beaucoup moins. Ouais. Mais ouais, Bordeaux. Ouais,
ça base. T'a manqué.
Paris ?
Ouais.
Oui, les clubs parisiens me manquent. Les clubs parisiens me manquent, ça devrait rouvrir bientôt.
Ok.
Mais non, mais même voir les potes, tu vois, te voir toi, à chaque fois que je monte sur Paris, comme les trois quarts du YouTube français à Paris, je vois tous les potes, donc ça fait plaisir, tu vois.
Ouais, mais moi, c'est hyper déprimant parce qu'on a un nouveau bureau, donc où, ici, ça s'appelle La Capsule. Et j'ai un pote sur 10 qui l'a vu, quoi. Parce que comme on l'a monté au début du Covid, ben voilà, plus personne n'a vu cet endroit, en fait. Ce qui est pas forcément grave, parce que quand les gens ils viennent, ils disent que c'est beaucoup plus petit. Non, du coup, il y a un effet déceptif.
Non, par contre, t'as un gros point, c'est que quand j'ai vu Hard Disk là en bas tout à l'heure, dans la cave, il fait super frais.
C'est vrai.
Et ça, l'été, je prends à 100%.
Est-ce qu'on déménagerait pas
à la cave?
Underscore.
En plus, il y a un bar.
T'as 5 minutes pour le faire.
Voilà, c'est ça. C'est parti. Oh, on serait capable. Et toi, Alexandre, quelles sont tes actualités? Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Voilà, en fait, moi, je conseille. C'est vrai que l'actualité en ce moment est assez assez chargée sur le numérique, puisqu'on a globalement un cadre juridique qui a une bonne vingtaine d'années, qui a été conçu à une époque où le numérique commençait à se lancer, mais on n'avait pas les plateformes, on n'avait pas les réseaux sociaux, et on n'avait pas tous les travers qui nous explosent actuellement. Et donc
portfolio incroyable,
ben voilà. donc, justement, on a cette chance-là en France. D'avoir un écosystème sur le numérique qui est quand même assez unique. Le meilleur exemple, on parlait tout à l'heure du Vivatech, c'est pas par hasard, parce que le numérique ne se résume pas que à Free, OVH et tout ce qui gravite autour, mais également aussi à toute cette masse d'entrepreneurs, de start-upers et de développeurs qui sont quand même reconnus au niveau mondial.
Ça fait longtemps que t'es dans ce milieu.
Oui, parce que voilà, malgré les apparences, je suis un jeune avocat, mais je suis un vieux routier du numérique, puisque avec quelques petits camarades, on s'est mis en tête de hacker les télécoms et ça a fait free. Donc moi j'étais le juriste de la bande.
Ah, c'était au tout début.
Ouais, j'ai tout début depuis 2000. Donc oui, effectivement, on a connu les périodes
avec le frérot.
Ouais, enfin, c'est-à-dire que c'était Xavier Niel qui faisait tout, les autres le reste. Mais mais globalement, voilà, j'ai cette prétention de effectivement venant du monde de l'entreprise, ouais, de connaître effectivement cette mentalité pratiquement 15 ans. Voilà, je suis parti en 2015.
Je sais pas compter.
Et comme j'étais juriste de la bande, et j'étais pas super satisfait de l'offre de service des avocats sur le marché, parce que je trouvais que non, les avocats français sont très bons en droit, mais par rapport à nos confrères anglo-saxons qui connaissent assez bien l'entreprise, bah il y a encore une connaissance de l'entreprise qui est digne de l'innovation et du numérique, qui est digne un petit peu de l'image d'Épinal. Donc je passais mon temps à taper sur les avocats, leur casser du sucre sur le dos. On avait fait le tour de la question, puisqu'on venait de lancer le mobile, tout ça, ça tournait tout seul. Bah le barreau est venu me voir en disant, bah écoute, je rappelle que t'es juriste, la critique est facile, mais juste fais-le, quoi. Et puis, bah, c'était un projet que j'avais en tête, mais que je repoussais sans cesse à l'année d'après. Et donc, c'était l'occasion d'y aller, et justement pour pouvoir porter cette parole à destination du monde du numérique, des structures, des entrepreneurs, pour leur dire non, faut que vous puissiez consulter un avocat de façon aussi naturelle que vous consultez votre expert comptable. Et donc, effectivement, trouvons des modèles adaptés pour pouvoir vous accompagner dans l'activité, notamment sur le conseil. La protection de l'innovation, enfin l'innovation, c'est un actif stratégique. Quand j'étais, effectivement, je conseillais des investisseurs, c'était un des premiers éléments que je regardais en disant, mais il est où ton poste juridique? Tu me demandes de financer ton truc sur quelque chose qui est une super idée, mais où elle est, où la protection de l'innovation?
Donc, en gros, une start-up, une entreprise, exactement, qui se pose des grosses questions là-dessus, ouais, peut aller te voir. Vous avez, ouais, le contact, vous avez vu je vais te trouver des clients, c'est ça, un soupeux.
Plutôt entreprise, parce que voilà, ouais. Mais même si effectivement
tu serais étonné honnêtement du nombre de gens qui te regardent.
Non, mais même si effectivement on va le voir après par la suite, donc une grande activité, c'est faire la chasse aux trolls sur les forums boursiers, ouais, sur lequel je peux vous dire que le droit est outillé pour intervenir rapidement. Et que donc après tout est une question de transposer ça sur le grand public, qui effectivement c'est un autre volume de contentieux. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Enfin, le droit est outillé pour traquer les déviances du numérique, que ça soit pour les entreprises ou pour les particuliers.
C'est parfait, parce que c'est juste littéralement le thème de notre émission. C'est, on va discuter de la loi. Je vais vous faire un petit sommaire des familles. On va discuter d'abord de quels sont les enjeux autour de l'anonymat. Est-ce que vraiment le Internet est une zone de non-droit comme on l'entend régulièrement? On va vous faire aussi une petite session de on réagit à Twitter. Je vais vous faire passer des tweets et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez sur toi, ton rapport, Simon, aux réseaux sociaux, etc., que tu suis de près depuis longtemps. La partie légale pour Alexandre. On aura un nouveau format à la fin de l'émission où on va recevoir une troisième personne qui va nous présenter, qui s'appelle Nicolas Bouchaïb, et qui va nous présenter ses travaux de data visualisation de Twitch. Il va notamment nous montrer une analyse de la ZLAN qui est hyper stylée. Donc ce sera à la fin de l'émission. Avant ça, je vais vous présenter des petites nouveautés qu'il y a dans l'émission, dans le logiciel dont je vous parlais, dans Gabin. Et ça, c'est le changelog. Jingle. Vous l'avez vu, c'est la première étape de ce jingle. D'ailleurs, il faut qu'on pense à quand il y a Gabin qui s'affiche en même temps que le jingle. Ça... Bon, bref, ce sera pour un patch. Ce sera un patch Gabin pour la prochaine patch. Émission, c'est ça. Première nouveauté, c'est ces nouveaux jingles, n'est-ce pas? Il y en aura des nouveaux comme ça régulièrement. Mais ça, c'était le petit jingle générique. Voilà quoi, dans le thème de l'émission. On reste
sur... La BA est cool. Hein.
T'aimes bien?
Ouais, carrément. C'est vraiment stylé ce que vous avez fait.
Bah, on fait je vais me faire insulter par mon graphiste, mais on fait des rectangles avec des ronds et des vitres.
Ouais, mais c'est très bien. parfait. Le plus simple, le mieux.
Des bords arrondis, comme Apple. Je vous avais rapidement montré ce schéma la semaine dernière qui est absolument incompréhensible, n'est-ce pas? Tout ça pour vous expliquer que j'ai rapidement, avec l'augmentation en complexité de ce qu'on voulait faire ici, parce que c'est un peu un bac à sable, je me suis heurté à un mur de spaghetti, n'est-ce pas? On appelle ça le spaghetti code, c'est quand tu commences à avoir des trucs qui vont dans tous les sens
ouais.
Et ça devient intenable, quoi. Du coup, on a fait une refonte complète de comment fonctionne Gabin. Vous avez vu, il y a un serveur central maintenant, et c'est extrêmement modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des fonctionnalités comme ça. Vous allez voir des exemples très, très bientôt, mais on pourra rajouter des fonctionnalités beaucoup plus facilement, des petits modules, etc. Bref, c'était un travail long, pénible de restructuration, mais c'est nécessaire, n'est-ce pas? Je sais pas si tu étais proche des équipes de développement, mais tu connaîtras certainement ces épisodes. Et donc, ça m'a permis de rajouter quelques petits clients. Donc, vous connaissez El Famoso Gabin qui nous explique ce qu'il est en train de faire. Il y a des nouveaux modules qui sont arrivés, notamment le plus important. Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous pouvez maintenant réagir à l'émission sur Twitter, en live, sur le hashtag _. Je vais le reformuler parce qu'il est compliqué. C'est le hashtag U_. C'est, ouais. À l'oral, ça marche pas.
Avec le tiré du 8.
Voilà, c'est ça. Tiré du 8. Donc, vous pouvez utiliser ce hashtag dès à présent. On va peut-être faire une petite démonstration si parmi vous, quelqu'un peut prendre... Non, mais pas dans le chat, mais réfléchissez. concentrez-vous.
Ah oui, toi, tu vois le chat.
Oui.
Okay.
N'hésitez pas à faire un tweet avec ce hashtag. Et normalement, on devrait pouvoir vous l'afficher. Pas forcément.
Les suspense.
Peut-être. C'est incessamment sous peu, si jamais il y a un tweet... Ah, ça rame, ok.
Bon. Ça, c'est le classico.
Potentiellement, au cours de l'émission, il y aura des tweets qui s'affichent. S'il n'y en a pas, ce sera pour la prochaine.
Ce qu'on appelle l'effet Bonaldi.
Voilà, c'est ça. Le jour de la démo, ça s'est cassé, c'est ça? Bon, on verra si ça fonctionne pour l'émission. Et normalement, il y a d'autres modules qui vont permettre à Gabin de pouvoir interagir avec nous. Nous dire quand, par exemple, Simon est 3 à gauche. Là, par exemple, t'es 3 à gauche.
Ouais. Attends, c'est l'autre gauche, droite.
Ouais.
Non,
c'est ça. Et bah, Gabin pourra te le dire, tu vois. Okay, tutoriel. Il t'enverra un petit message, tu diras, concentre-toi, Simon.
C'est bon.
Tu pourrais faire des petits efforts. Il pourra faire ça.
Tout bien fait.
Potentiellement, il y aura un petit aller-retour fait. Ah non! Parfait.
Ah, ça y est, bah voilà.
Ouf, non, attends, en vrai. Moi, je propose que Gabin remplace Nicole sur cette émission.
Mais écoute, à terme, il y aura plus d'humains.
Il y aura plus d'humains. Pas de discussion entre des robots.
Exactement.
Underscore gone too far.
Exactement. Underscore, ce sera réalisé par des robots. Les invités seront des robots. Moi, je serai une IA.
Putain, un truc.
Ce sera sympa.
Way
voilà.
Too much.
Ouais, c'est ça. C'était le petit changelog du jour. Potentiellement, un nouveau changelog très bientôt s'il y a des avec les bugs. Mais voilà, c'est pas grave. Je vous propose qu'on en parle tout de suite sur notre sujet. Est-ce que le numérique, c'est une zone de non-droit? Dans l'actualité toute récente, ce qui m'a fait penser à ce sujet, je vous avoue, c'est la gifle de Macron. Ah. Pourquoi? On pourrait se dire qu'elle n'était pas virtuelle, cette gifle. Il se l'est pris, je pense, facialement, mais il a quand même fait à demi-mot, il a quand même dit que c'était les réseaux sociaux qui étaient responsables de la gifle. Est-ce que la question c'est que, est-ce qu'ils ont pas un peu bon dos ces réseaux sociaux?
Si je peux commencer.
Vas-y, Simon.
Je trouve que c'est quand même plus un mec qui avait Mein Kampf et des trucs manifestement d'extrême droite chez lui, plus que les réseaux qui ont mis la tarte finalement. Déjà de base, si on prend factuellement parlant, c'est oui effectivement très facile d'attaquer les réseaux. Après, je trouve ça assez particulier quand même pour un mec qui au début de sa campagne voulait mettre en avant à fond la Startup Nation, de tu sais de s'attaquer aux réseaux un peu facilement comme ça gratos, alors qu'il en a fait son fer de lance pendant une bonne partie de sa campagne. Non, en vrai le problème c'est qu'effectivement ils sont pris pour n'importe quoi. Maintenant en faire une zone de non-droit, je pense pas. On en discutait un peu en off tout à l'heure. C'est quand même un endroit où effectivement c'est très légiféré. Là où c'est plus compliqué, effectivement, c'est qu'on a la sensation que c'est une zone de non-droit parce qu'on voit jamais de peine réellement tomber. Ouais. Et les quelques fois où il y a des peines qui tombent pour des cas de harcèlement, des cas d'incitation à la haine, etc., etc., je crois que c'était arrivé avec une actrice pornographique, Nikita, ouais. Je sais plus quoi, qui avait fait. Ouais. Exactement, Bilucci. On prend ça comme des cas d'exemple alors que des situations reviennent à plein. Donc, c'est pas une zone de non-droit selon moi. Ouais. Mais ça y ressemble énormément parce que on voit jamais de peine tomber
extrêmement vite. Donc on va revenir sur pas mal de choses que t'as dit. Non, t'inquiète pas.
Non, mais on va revenir sur pas mal de choses. Tu plantes bien le sujet.
Mais est-ce que toi tu vois déjà un lien entre ce que dit Macron et enfin entre les réseaux sociaux et la fameuse gifle?
Alors oui, il y a un lien, mais qui n'est pas dans les proportions que nous vendent effectivement le politique. Enfin, sur ces sujets-là, comme sur pas mal d'autres, on pointe un vrai sujet. Mais en l'occurrence, on se focalise sur l'outil, et c'est pas l'outil en soi qui est responsable, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et là-dessus, on en est tous responsables. Alors oui, effectivement, les réseaux sociaux, certains ont une part de responsabilité parce qu'ils ont un modèle économique qui privilégie le clash et le clash engendrant le clash. D'autres privilégient peut-être d'autres modèles, mais c'est avant tout une question d'éducation, et ça sur lequel la responsabilité des pouvoirs publics est immense. Nous autres professionnels du numérique, ça fait 20 ans qu'on dit attention, le numérique. Je veux dire, prenons l'exemple des enfants. On les lâche dans la ville, on les emmène quand même à l'éducation routière pour qu'ils regardent à gauche et à droite avant de traverser, parce que c'est pas la faute des voitures, c'est la faute des conducteurs, ou c'est la faute. Voilà. Mais donc on n'est pas venu incriminer les voitures en disant voilà, simplement oui, on a fait des normes de sécurité, comme tu disais, on a légiféré, mais c'est un ensemble global. Pour le numérique et les réseaux, c'est exactement pareil. Et à force de trop taper sur les réseaux, qui effectivement ont une part de responsabilité derrière tout ça, on développera peut-être. Mais on a l'impression qu'on va regarder, alors qu'on montre la lune, on est en train de regarder le doigt. Et on passe à côté des vrais sujets que sont les moyens qu'on consacre en tant que politique publique à la prévention, qui est essentielle sur ces sujets-là, la prévention, l'éducation, la sensibilisation. Parce que nous, ce qu'on voit... ce que font mes confrères qui interviennent en pénal sur ces sujets de harcèlement numérique, 9 fois sur 10, c'est des gamins et des gamines sur lesquels ils n'ont eu aucune sensibilisation. Et donc, filer le numérique à un gamin et une gamine sans discuter des usages, ce que font d'ailleurs beaucoup de parents lorsque arrive le rite initiatique de l'entrée au collège et on met un portable, c'est une grenade dégoupillée. Parce que le portable, c'est plus qu'un truc qui sert à téléphoner, c'est quelque chose qui peut... espionner l'intimité, etc. Donc là aussi, c'est une question d'éducation aux usages et aussi d'une responsabilité qui est immense de la sphère publique qui ne consacre pas les moyens nécessaires à la prévention. Plusieurs types de politiques, par exemple le harcèlement, le respect de l'altérité, etc. Et aussi, comme tu disais très justement, il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas de zone de non-droit, mais il y a un véritable sentiment d'impunité qui, lui, effectivement, est réel.
Il y a un truc qui est dit par rapport à ça, justement, souvent, c'est cette histoire d'anonymat. Ça remonte régulièrement.
Il n'y a pas d'anonymat.
Voilà, la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez la sensation de... T'as l'impression d'être anonyme, toi, quand
ma chaîne s'appelle Simon Puech, oui. C'est un peu compliqué.
Tu l'as choisi dès le début, ça?
Non, c'était, alors, quand j'ai changé mon nom de chaîne, oui. Ouais. Mais si tu veux, je savais que dans tous les cas, ça allait vite être découvert qui j'étais, tu vois, à moins d'être le règlement qui sécurise tout de A à Z ou machin. Généralement, toi, toute la moitié de tes abonnés doivent savoir ton prénom ou pas, tu vois. Donc, bon, voilà, après.
Parce qu'il y a une fonction purement, de sécurité, de vouloir protéger son identité. il y a aussi une question de parfois de créer un personnage.
Oui, bien sûr.
Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, je pense que là-dessus, le débat, notamment par les politiques, est très mal posé. On a tendance à confondre deux notions qui n'ont rien à voir, qui est, là vous venez de l'illustrer, tous les deux, un droit qui est essentiel, qui est fondamental dans une démocratie, parce que c'est un moyen aussi de libérer la parole, de faire en sorte que des personnes qui n'ont pas la puissance puissent parler librement, qui est le pseudonymat. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être intransigeant, ça doit être garanti. Le pseudonymat, c'est ce qui permet, par exemple, à des lanceurs d'alerte de pouvoir effectivement sensibiliser. Ça permet à des fonctionnaires qui sont tenus par le devoir de réserve de pouvoir quand même communiquer sur leur métier et faire de la pédagogie. On voit que, par exemple, notamment chez les policiers, chez les membres des forces armées, si on était encore à l'ancienne, ça serait pas possible. C'est plutôt une bonne chose de faire de la pédagogie sur ces sujets-là. Mais on a tendance à confondre pseudonymat, qui est quelque chose qui est garanti, sur lequel faut surtout pas qu'on revienne là-dessus, et anonymat. C'est pas parce que vous êtes sous pseudonyme que vous êtes anonyme. C'est-à-dire que en France, en Europe en général et en France en particulier, depuis 2004, les intermédiaires techniques doivent être en mesure d'identifier, de contribuer à l'identification d'une personne, quand bien même cette personne est sous pseudonyme.
Très très techniquement. Si on prend un exemple, par exemple Twitter, je fais un tweet, j'ai un pseudo. Donc c'est ce que quelqu'un pourrait dire qui connaît pas forcément le sujet, pourrait dire que je suis anonyme puisque on peut pas
exactement
voir mon nom. Qu'est-ce qui se passe très techniquement dans les coulisses pour permettre ce non-anonymat, du coup?
Alors déjà, techniquement, si tu ouvres un compte Twitter, même sous un pseudo, déjà d'une part, t'es pas obligé de donner ton identité réelle, c'est plutôt une bonne chose.
T'as une IP, j'imagine.
Voilà, c'est-à-dire que déjà, si tu ouvres un compte, ils vont te demander ton numéro de téléphone pour t'envoyer le code de vérification. Ouais. Donc si tu rentres un faux numéro, ça sera quelqu'un d'autre qui recevra le code de vérification. Alors peut-être, je dis pas que c'est impossible, mais ça complique un peu le truc. Et donc résultat, tu pourras pas verrouiller, enfin tu pourras pas activer ton compte. Donc très vite, tu vas plus pouvoir poster. Autre élément aussi, la loi impose en Europe et en France à ce que toute personne qui publie du contenu, et du contenu, c'est un tweet, c'est un like sur Facebook, c'est ce genre de choses, doivent conserver les données techniques. Les données techniques, c'est l'adresse IP. Et l'adresse IP, par définition, elle est unique. C'est comme une plaque d'immatriculation sur Internet, c'est-à-dire c'est le même principe que pour les voitures. C'est-à-dire que j'ai pas mon nom de famille sur ma voiture. Par contre, si j'ai le pied un peu lourd, je me fais flasher, et 10 jours après, je reçois la petite photo. Et donc, j'ai mon pseudonyme qui est garanti via la plaque d'immatriculation. J'ai pas besoin de mettre mon identité réelle. C'est mon droit le plus élémentaire. Par contre, si je fais des bêtises avec, on me retrouve. Sur le numérique, c'est exactement ça.
T'as mentionné deux trucs intéressants. C'est l'IP et le numéro de téléphone. Ça, en tant que tel, on pourrait se dire que c'est pas un nom, quoi. C'est pas un numéro de carte d'identité que posséderait l'État. C'est des genres de données intermédiaire, comment ça se passe? Il y a des étapes supplémentaires, j'imagine.
C'est des données personnelles, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des données indirectement personnelles, c'est-à-dire que, sauf à état omniscient, tu peux pas savoir...
L'État n'a pas une base de données dans ses fichiers.
Voilà. Mais bon, 80% des gens s'amusent pas à trafiquer leur IP ou avoir un téléphone à carte prépayée dans le but d'aller troller sur Internet.
Voilà. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État n'a pas
une
base de données.
Ils sont obligés d'interroger des bases de données qui est chez les opérateurs, chez Twitter, chez Facebook, etc. Et donc, il y a une collaboration de ces différents acteurs-là.
Alors ça, c'est principe. C'était chez Frige, non?
Oui.
Est-ce que t'as vu
dans ma précédente vie, oui, effectivement, je passais mon temps à répondre à des réquisitions judiciaires. En France, vous avez pas loin de 2 500 000 réquisitions judiciaires qui sont adressées aux acteurs du numérique. Donc, les opérateurs, les FAI, qu'ils soient fixes ou mobiles, et les acteurs du numérique, donc les plateformes. 2 500 000, ça en fait, pas loin de 7 000 par jour. C'est quand même quelque chose. Et oui, quand on est à la tête d'un acteur qui a pas loin de 10 millions d'abonnés, donc on commence à avoir des abonnés qui sont représentatifs de la sociologie de ce pays, donc ça vous donne à peu près une idée. Et sans rentrer dans le détail, oui, on a eu affaire à de sinistres familles toulousaines en mars 2012, par exemple. Aye. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le numérique a permis d'identifier les sinistres membres de cette famille, et d'identifier, s'il n'y avait pas eu d'acteurs du numérique responsables, on en serait encore un petit peu à essayer de rechercher l'aiguille dans une botte de foin.
Et eux, ils n'avaient pas leur nom techniquement.
Non, ils étaient sous pseudo, bien évidemment.
Donc on pourrait dire que ils sont dans l'anonymat.
Donc ils étaient effectivement vu des politiques. Enfin, si on écoute les politiques, ils étaient anonymes, mais juridiquement, ils n'étaient pas anonymes, ils étaient sous pseudo. On a pu les retrouver. Enfin, les investigations techniques ont en quelques jours ont pu effectivement identifier les membres de cette famille.
Bon, alors, qu'est-ce que concrètement ils veulent dire quand ils disent, je crois que Emmanuel Macron disait, je ne veux plus d'anonymat sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes?
Mais enfin, pour revenir juste sur la question première, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? Et pour revenir sur cette question d'anonymat, quoi qu'il arrive, je pense pas que l'anonymat règle quoi que ce soit, parce qu'il y a aussi cet effet sur les réseaux à vouloir se regrouper en tant que groupe. Tu sais, sur Twitter, tu peux avoir des drapeaux, des emojis, etc., etc. Donc, l'anonymat en soi, je pense pas que, enfin, les gens savent que si, enfin, j'espère que si jamais la législation essaie de te retrouver, ils ont mille et une pistes pour le faire, tu vois. Donc, quand il dit il faut en finir, c'est ça, ou il faut le conserver?
Je crois il faut en finir.
Ça n'existe déjà pas concrètement. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Il faut en revanche le conserver, comme tu le disais, à l'échelle d'individu à individu. C'est-à-dire que si demain effectivement j'insulte ou je me fais insulter par un mec sur Twitter, bon ben concrètement je peux pas en cliquant, faisant deux clics, retrouver son adresse, et si je suis fou aller devant chez lui le tabasser. Tu vois, ça c'est non. Effectivement, dans ce sens-là, il faut absolument le conserver. Dans le sens, il faut le détruire. Ça n'existe déjà pas techniquement aux yeux de l'État français, donc je sais pas.
Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que aussi le pseudonymat, enfin là, pas plus tard qu'avant-hier, j'intervenais dans des écoles pour sensibiliser les futurs collégiens.
C'était la vidéo que j'avais faite.
Voilà, les futurs collégiens aux bonnes pratiques sur le numérique. On passe notre temps à dire aux futurs utilisateurs du numérique, notamment quand ils sont mineurs, n'y allez pas sous votre véritable identité, parce que votre identité, elle va vous poursuivre toute votre vie. Alors que si vous êtes sous pseudo, bah, au moins, oui, vous grillerez un pseudo si jamais ça part dans le décor. Mais au moins, votre identité sera préservée. Et je trouve que ce discours consistant à taper sur l'anonymat, qui d'ailleurs n'existe pas, est totalement irresponsable pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des qui sont pas puissants, qui n'ont pas des gardes du corps pour les protéger, etc. Par exemple, les victimes de harcèlement, c'est quand même le pseudonymat qui leur permet un petit peu de faire suivre.
Je me souviens, on avait des cours de, alors c'était projet professionnel, je sais plus, à l'université, et où ils nous apprenaient à gérer l'irréputation. Donc en gros, aller voir si qu'est-ce qui ressort quand on tape ton nom. Est-ce que t'as des trucs qui peuvent être compromettants pour un employeur?
On a eu une surprise comme ça. Ouais. Dans mon école la première année, donc on avait ça à cours des réputations, exactement la même chose. Ouais. Et une nana qui gérait une agence web, elle nous a tous à fait taper nos noms, tu vois. Et il y en a une fille de la... C'est pas les bonnes photos qui sont sorties sur Google Images.
Ah non, sur Google directement.
Ouais, très mauvais.
Ah, les anonymes, ouais. Ouais.
Donc ouais, c'est problématique, ça peut vite être le bordel. Mais ouais, non, effectivement, l'irréputation. Après, ce qui est rigolo aussi avec cette histoire d'irréputation, c'est que si tu mets ton nom, par exemple, que si tout le monde se servait de son nom tout le temps sur les réseaux, avoir un pseudo aussi, c'est une certaine manière de se démarquer. Je prends l'exemple des comptes Instagram. Maintenant, limite, il y a des gens, je les appelle... toi, par exemple, il faudrait très bien t'appeler Micode, tu vois.
Bien sûr, ouais.
Donc ça te différencie de tous les Michael auxquels je peux faire référence. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, des mecs qui travaillent pas ou qui se servent pas des réseaux avec un pseudo. Je prends l'exemple d'un autre gars qui s'appelle Simon Puech, qui est réalisateur à Toulouse. Ouais. Concrètement, le mec se sert pas de pseudo, il se sert de son nom sur Internet. Ben, je l'ai fumé. Tu cherches Simon Puech, c'est moi qui
tombe par jamais. Il y a beaucoup de...
Ça peut servir aussi à se démarquer quand t'as des homonymes, de la vraie vie des prénoms, qui juste te flingue ta vie.
Après, il y en a plein des gens comme ça qui ont des homonymes. Et du coup, ils ont aucune chance de ne jamais être référencés nulle part. C'est déprimant.
Donc, le pseudo, ça sert à te démarquer aussi. C'est pour ça qu'il faut pas en finir avec ça.
Non. Et en fait, là-dessus, c'est une question de déficience, d'efficacité des politiques publiques où, malheureusement, dans ce pays, on n'aime pas trop s'occuper de l'intendance, mais sur le numérique, c'est essentiel, l'intendance.
Et qu'est-ce que tu entends par l'intendance?
Ben, faire en sorte que actuellement les réquisitions judiciaires, alors moi dans ma précédente vie, les réquisitions judiciaires, c'était des fax qui arrivaient. Alors quand on a quelques-uns dans la semaine, ça va, c'est gérable. Quand je te disais t'en as 7000 par jour, donc Free c'était 25% du marché, donc ça donne à peu près une idée sur les 7000 ce qu'on peut avoir, c'est juste ingérable avoir à gérer plus de 1500 fax par jour, alors que on a des outils, enfin typiquement c'était rageant parce que entre opérateurs, même si on se tapait avec Orange etc, mais pour qu'on puisse produire toutes ces lignes en ADSL ou en fibre optique, on avait totalement dématérialisé le truc. Pour être efficace.
Ça devient une bande passante
notamment les identifications d'abonnés. C'est ce que disent d'ailleurs, quand on entend dire oui, mais regardez, Twitter, Facebook ne collaborent pas. Déjà, d'une part, ce sont des sociétés de droit étranger, ce sont pas des sociétés françaises, Twitter et Facebook. Donc, si on veut effectivement les amener à collaborer et sur principe, à ne le remettre pas du tout en question. Mais si on veut les amener à collaborer efficacement, faut utiliser des outils efficaces. Et il se trouve que, nous, chez les opérateurs, on était amené à faire une grève des réquisitions judiciaires parce qu'on en avait marre de gérer le papier, puis ça générait de la frustration parce que mets-toi à la place des enquêteurs des officiers de police judiciaire qui attendaient leur réponse, mais tu es obligé de gérer de la pénurie quand tu es sous une montagne de papier, alors que c'est rageant, alors que si tu sais que t'as un système d'information efficace, l'information, elle arrive en quelques minutes. Ouais. Tu passes de plusieurs semaines à quelques minutes.
Je trouve ça hyper intéressant que t'aies un peu les insights qui se passent là-dessus, parce que moi, je suis initié à ces problématiques-là, mais on sait jamais trop ce qui vraiment, à quoi ça ressemble au jour le jour, quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire le schéma de, moi, si je signale un tweet, par exemple, au-dessus, il y a du contenu, on va dire, illégal. Qu'est-ce qui se passe? Je le signale à l'État déjà, je le signale à la plateforme. Et après, c'est quoi le chemin étape par étape pour à la fin qu'il y ait peut-être une condamnation?
C'est la maison qui rend fou, quoi, et le formulaire à 38 bis. En tout cas, quand c'est la France, c'est ça qui est dramatique. Enfin, on en rigole, mais moi, je me mets à la place des victimes, c'est tout sauf rageant. Parce que ce que les victimes retiennent, notamment les jeunes filles qui se font harceler en ligne, c'est y a assez une impunité. Et l'État ne fait rien, ou les plateformes ne font rien, alors qu'on est sur une somme d'inefficacité. Enfin, pour revenir à ta question, alors si tu es confronté à du contenu qui est illicite, t'as deux façons. Soit tu le signales à la plateforme, ou soit tu le signales à une plateforme qui s'appelle Pharos, qui est gérée par le ministère de l'Intérieur, qui permet effectivement de centraliser.
C'est nouveau, ça, ouais. J'ai
jamais entendu parler de ça, moi.
C'est nouveau, ouais.
Voilà,
ouais.
Donc tu vois, globalement, les pouvoirs publics ont un outil, mais ne sont pas super doués pour le marketing là-dessus, alors que sur d'autres sujets, je pense notamment la vaccination. Quand on voit les dernières vidéos, il y a quand même des choses assez sympathiques.
Il faudrait que quelqu'un mette une gifle à Flarousse.
L'État, malheureusement, sur ces sujets, enfin, je veux dire, la justice, le droit, c'est un fondement c'est un pilier d'une démocratie. Ouais. C'est quelque chose on fait du droit chaque jour sans s'en rendre compte. Et la justice.
Ou alors signalement de la plateforme. C'est quoi la différence?
L'avantage de Pharos, non, c'est que déjà d'une part, ce sont des policiers et des gendarmes qui sont spécifiquement formés au contenu numérique. Ouais. Qui ont la connaissance du droit français et donc ils vont pouvoir l'apprécier par rapport au contexte. Là où Twitter, si on prend Twitter par exemple, Twitter, la France, c'est 2 ou 3% de ses utilisateurs. Donc dit autrement, Twitter, peut-être un peu moins, quoi, ouais, non?
Je sais pas.
Et Twitter est présent dans 150, 160 pays. Donc autant dire que la France, ou même si effectivement c'est un pays le phare de la liberté, tout ce que tu veux, mais c'est pas nécessairement le centre de gravité Twitter. Et donc, tu vois, et en plus, accessoirement, c'est pas un des meilleurs acteurs par rapport à d'autres en matière de modération et d'analyse des contenus.
Ah bon, Twitter, comment ça, c'est fou ça.
Non, mais voilà, parce que là aussi, peut-être qu'on reviendra, mais la modération chez ces acteurs-là, comme le modèle économique, il est ce qu'il est, il n'y a pas vraiment d'efficacité, où on a tendance à faire confiance un peu trop, un excès de confiance dans des outils automatiques, qui effectivement sont peut-être très doués sur certains sujets, mais qui n'ont pas la finesse d'analyse liée au contexte. Donc ce qui fait que ça explique pourquoi...
J'ai une question pour venir à ça. Du coup, selon toi, parce que maintenant que j'apprends l'existence de Pharos, ouais. On parlait de... Enfin, quand j'ai été un peu vite au début, on parlait du fait qu'il y a un sentiment d'impunité qui vient du fait que si jamais tu vas voir des policiers et tu leur dis, voilà, je me fais harceler sur Internet, ils vont te dire, vous
l'avez un peu cherché, là, vous l'avez un peu provoqué.
Mais, au-delà de ça, même, je pense que pas forcément partout, mais ils vont commencer, ou en tout cas maintenant ils disent, et j'ai encore lu un truc de Marie Coulès, c'est une Instagrammeuse / YouTubeuse qui en parlait tout à l'heure sur Instagram, il y a un sentiment de... Enfin, ils vont te dire, ok, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, est-ce que selon toi, aujourd'hui, c'est plus intéressant quand tu es dans une situation de harcèlement insupportable d'aller voir des policiers qui, allez, t'as peut-être 20% de chance qu'ils te disent « Ok, on va essayer de faire un truc » ou de bombarder sur Pharos. Avec le plus de résultats, c'est quoi?
Non, Pharos n'est pas là pour régler des cas individuels.
Ah.
Et voilà, Pharos est là pour... c'est en fait un immense thermomètre sur des cas très problématiques qui peuvent devenir viraux. Typiquement une vidéo d'un viol qui se balade où tout le monde c'est-à-dire qu'il y a sur les réseaux comme ailleurs il y a un effet de voyeurisme et il y a beaucoup de gens qui se scandalisent contre la vidéo mais qui trouveraient plus intelligent que de la balancer contribuant à l'aggravation du préjudice de la victime. Mettez-vous à la place de la victime, même si effectivement les gens au départ se scandalisent à juste titre de ce qui lui arrive, mais elle a peut-être pas nécessairement envie de voir ces images dégradantes continuer à circuler. Donc Pharos effectivement est là pour pouvoir centraliser tout ça et ils ont un canal direct avec les plateformes pour dire écoute, tu retires. Ouais. Ok. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est assez beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, hein, notamment sur Twitter.
Alors
sur
non, je parle pas des cas en eux-mêmes, mais je parle des résultats qu'obtient le.
Voilà.
Quand ils ont
qualifié, enfin généralement quand ils envoient aux plateformes, il faut qu'ils envoient aux plateformes. Alors après, le problème, c'est que là aussi, Pharos peut se faire hacker. Une nouvelle fois,
c'est sans fin.
C'est sans fin cette histoire parce que on le voit très bien, comme c'est déjà le cas sur Twitter, où il y a une grande partie de raids numériques, on fait des vraies fausses, des campagnes de signalement massif pour, parce que comme ça, ça va affoler les algorithmes, et qui donc, voyant un afflux de signalements, vont dire, oh là, s'il y a des signalements, ça veut dire que c'est un méchant, donc pouf, je suspends, et puis s'il râle, je regarderai. Et Pharos, c'est un peu ça, des fois. Des fois, Pharos se fait hacker avec des signalements pour des gens qui se prennent le bec pour quelque chose qui, de mon point de vue, relève plutôt de l'abus de la liberté d'expression, mais qui ne relève pas des cas de manifestement illicite.
Mais du coup, si Pharos ne peut pas servir dans des cas individuels, en mode, ben voilà, il y a lui qui m'harcèle depuis trois semaines, je signale tous ces tweets à Pharos, est-ce que ça sert vraiment à quoi que ce soit? Parce que je prends l'exemple, tu citais des vidéos de viol là, il y a pas longtemps sur TikTok, il y a une gamine qui s'est fait décapiter, ça a de ouf tourné. Les plateformes sont quand même, effectivement, si elles ont du mal à réagir sur tout, les trucs vraiment hardcore à base de meurtre, suicide, viol.
Ça met combien de temps par exemple
la vidéo de la cette tranchée là en quelques heures, ça avait dégagé parce que ça a été viral.
C'est long, hein, quelques heures.
Ouais, mais oui, mais je veux dire, est-ce que ça serait pas encore plus long si Pharos voit un pic, Pharos va voir TikTok, fait coucou de TikTok, tu vois. Donc je me dis, en fait, si Pharos ne peut pas servir aucun individuel, est-ce que ça sert tout court, en fait, parce que les plateformes, elles ont quand même si elles ont tellement de trucs à gérer, elles ont quand même pas que ça à faire que d'avoir des vidéos de viol qui traînent pendant 3 heures, tu vois.
Voilà, clairement, oui, c'était effectivement, enfin, Pharos, c'était adapté à l'ancien monde. On voit que globalement, il faut qu'on adapte ça à la mare. Enfin, déjà, d'une part, Pharos, c'est pas un truc qui tourne 24 heures sur 24.
Eh, j'adore ce truc.
Oui.
Ah ouais, donc, ouais, non, mais vas-y,
non, enfin, ça va passer à 24 heures sur 24, mais ils ont.
J'adore.
C'est infernal.
Ça y est, non, mais justement, parce que effectivement, les réseaux tournent la nuit, quoi. Enfin, voilà. Mais ça, ils ont enfin percuté qu'il fallait que ça tourne 24 heures sur 24, mais on n'est pas encore au rendez-vous en termes de staffing là-dessus. Enfin, il y a un véritable problème de moyens consacrés à l'action de la sphère publique là-dessus. Pour reprendre ton cas, bah oui, j'entends très bien. Enfin, sur ce sentiment d'impunité, mais on est le pays en Europe qui consacre ramener à l'habitant le moins à sa justice depuis plusieurs décennies. C'est pas nouveau, c'est depuis plusieurs décennies.
Tu nous en as parlé un petit peu avant, mais c'est que tu peux nous donner des chiffres.
C'est un véritable scandale. C'est-à-dire que un exemple, le Trésor dans le cadre Trésor public dans le cadre des Gilets jaunes s'est livré à l'exercice de pédagogie. C'était plutôt une bonne chose de dire, bah tiens, voilà, pour 100 euros d'argent public, combien part à la justice ? Enfin, combien vont dans les services publics, bah pour la justice, ils ont été obligés de mettre, ça vous donne une idée, ils ont été obligés de mettre l'échelle à 1000 euros. Ça veut dire que pour la justice, pour 1000 euros d'argent public, il y a 4 euros qui vont à la justice, en intégrant les prisons. C'est-à-dire 40 centimes si c'est sur une base 100. C'est-à-dire la justice au sens large, c'est-à-dire aussi la justice, c'est pas que des gens et des juges, hein, c'est aussi les enquêteurs en amont pour enquêter. Vite, rapidement et de façon fiable. C'est aussi un suivi socio-judiciaire pour ceux qui sont condamnés. Parce que le but du jeu, c'est pas que les gens terminent toute leur vie en prison, mais qu'ils puissent en sortir et de préférence soigner sans qu'on ait de récidive. On a un taux de récidive qui est 10 fois supérieur aux pays qui mettent le paquet dans leur justice pour la formation, le suivi sociologique.
Tu peux nous donner d'autres chiffres qui sur d'autres pays?
Par exemple, si on ramène ça à l'habitant, on a coutume effectivement de bien comparer la France à l'Allemagne. On est bien notamment sur le numérique, ce genre de choses, le budget, voilà. L'Allemagne consacre par habitant pas loin de 140 euros. Enfin, ils sont à 133, 134 euros sans les prisons. Hein. Où la France, avec les prisons, était à 62 euros, mais on vient de passer à 69. Donc on a le ministre qui dit, ouais, regardez, c'est budget historique. Moi non, je me satisfais pas quand j'entends un ministre dire budget historique. Pour moi, un budget historique, c'est on reviendrait aux Allemands, et les Allemands qui sont pas les meilleurs élèves au niveau européen, les meilleurs élèves c'est les pays scandinaves. Là encore aussi, cette approche scandinave de la pédagogie, la réinsertion, c'est un investissement qui est utile, c'est pas une charge. Eux, ils sont à pas loin de 200 euros. Moyennant quoi, oui, là-bas aussi, ils ont des harceleurs, là aussi, ils ont des violeurs, mais moyennant quoi, ils ont un taux de récidive qui est 10 fois inférieur au nôtre.
Après, on prend souvent les pays scandinaves en tête pour beaucoup de trucs, mais bon, c'est quand même des pays où c'est compliqué de comparer. Ils sont tellement moins nombreux, ils font tellement plus de bif. C'est quand même plus compliqué à comparer. Mais effectivement, dans un idéal, c'est souvent eux qu'on prend à raison. Oui.
Non, ou par exemple, bon, effectivement, les États-Unis, mais là, sur ces sujets-là, on est un vrai sujet d'efficacité de la politique publique et sur lequel on est encore à vouloir plaquer des schémas qui datent du XXe siècle en termes d'organisation, alors que le numérique, enfin. Le long terme, t'es bien placé pour le savoir. Le long terme dans le numérique, c'est dans 6 mois, quoi.
Et on est encore. Je suis bien placé pour le savoir, mais mes robots, ils bug, donc.
Voilà. Non, mais. Et donc, du coup, on est encore, ils en sont encore envoyés des mails à Twitter et à Facebook ou à Apple qui disent mais écoutez les gars, on a mis en place des API etc, pourquoi vous voulez pas les utiliser? Ah bah non, c'est pas souverain, c'est pas inventé depuis chez nous,
la
France monsieur,
ouais, non,
mais c'est très bien, c'est très beau d'être chauvin, c'est bien, c'est de vouloir vanter là par exemple à Vivatech, ils ont que ça en tête en ce moment, c'est la souveraineté technologique, voilà. Mais si on est encore avec ces approches qui sont totalement à côté de la plaque et qui au final font que quand on dit par exemple Twitter n'a pas répondu, déjà Twitter c'est une société de droit américain qui est avant tout tenue par le droit américain, alors même s'ils font des efforts pour essayer de s'adapter en Europe, et on parlera peut-être des textes européens là-dessus, c'est plutôt une bonne chose, mais par exemple sur la conservation des données, eux ils conservent 3 mois, c'est-à-dire ils sont capables de répondre rapidement s'il y a une demande de moins de 3 mois. Après ils peuvent peut-être au cas par cas faire ce qu'ils appellent du gel de données, mais il faut quand même qu'on leur dise avant les 3 mois.
Est-ce que ça correspond au calendrier juridique français?
En français c'est 1 an. Mais donc du coup, comme on doit conserver 1 an en France, qui d'ailleurs a été retoqué par la justice, les justices européennes, pas tant sur le principe, mais pour les considérations, ben voilà, très bien. Non, là, donc on se retrouve avec un système qui est inefficace.
Est-ce qu'il y a des situations, par exemple, au moment du jugement, on demande les logs et en fait ils sont plus là parce qu'ils ont été supprimés? Ça arrive, ça?
Ça arrive, mais ça arrive pas plus tard que, enfin, sur les cas que tu cites, Simon, de jeunes filles qui, enfin, c'est marrant, l'État est infoutu de nous faire un benchmark, de produire, bah tiens, bah voilà, une réquisition judiciaire, quel est le délai moyen entre le moment où la personne dépose plainte, le moment où la plainte est enregistrée, le moment où un OPJ est désigné, un moment où l'OPJ va émettre la réquisition, c'est et un moment où l'acteur technique,
officier de police judiciaire.
C'est-à-dire, c'est les policiers qui sont chargés par les magistrats d'enquêter. Et entre guillemets, qui font tout le sale boulot, c'est eux qui vont, voilà. Et ça, il y a un député, Éric Botorel, qui a posé une question au gouvernement sur ce sujet-là, en disant, bah, écoutez, on dit que les plateformes ne collaborent pas, mais quels sont les chiffres de l'État? Parce que, en attendant, oui, même si on dit que les plateformes ne collaborent pas, c'est les seules, enfin, ce qui, moi, me pose un petit peu souci d'un point de vue de souveraineté, on doit se contenter des chiffres qui sont publiés. Et les plateformes, Facebook, Twitter, Apple, publient tous les 6 mois des rapports de transparence dans lesquels on apprend que, par exemple, pour Twitter, sur les 6 derniers mois, les 6 premiers mois de 2020, parce que c'est les derniers chiffres qui ont été publiés, ils sont en train de compiler le dernier semestre de 2020, mais ils ont eu 12 000 demandes de réquisition judiciaire au niveau mondial, et 2 000 qui ont été envoyées par la France. Et sur les 2 000 réquisitions judiciaires qui ont été envoyées par la France, il y a quand même un gros tiers qui est inexploitable. Donc ça veut dire que la réquisition, elle demande, ils sont trompés sur l'adresse IP, ou ils n'ont pas le port source. Par exemple, le port source, il faut savoir que quand vous êtes sur, quand vous connectez depuis le mobile, sauf si vous êtes en IPv6 ou par définition l'adresse est unique, mais si vous êtes en IPv4 sur le mobile, l'adresse, elle est partagée entre plusieurs abonnés. Et le port source, c'est ce qui va permettre de pouvoir identifier, de savoir qu'on va frapper à la bonne porte. Eh ben, on a encore des réquisitions judiciaires parce que c'est pas dans la circulaire A38 bis. Il n'y a pas le port source. Et Twitter dit, mais écoutez, les gars, si vous me donnez pas le port source, je peux pas répondre.
Si je récapitule, peut-être pour les Montecos ou ceux qui n'étaient pas attentifs.
Ça y est, on les a perdus.
C'est ça.
Ceux qui dorment au fond.
Donc, on a dit, on collecte les adresses IP. A priori, dès que vous publiez quelque chose chez un hébergeur de contenu, il y a des choses qui sont stockées. Votre adresse IP, on a cette image en tête qu'elle est unique à votre domicile, à votre box si vous êtes chez vous. C'est le cas pour votre box, mais c'est pas le cas si vous êtes sur une carte SIM.
Ouais.
Où en fait, il y a de la mutualisation d'IP, et ensuite, il y a des redirections qui se font. Alors du coup, si les petites lettres qui composent Internet sont pas redirigées avec l'IP, il faut une donnée supplémentaire, et donc c'est un port.
C'est ça.
J'ai pas dit de bêtises.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et donc, grâce au port, ça arrive sur votre téléphone, etc. Et donc, en gros, si y a que l'IP, ça correspond à un groupe de personnes.
C'est ça.
On va pas condamner un groupe de personnes juste parce qu'il y en a un qui a fait un tweet légal.
Ou ça veut dire qu'il faut faire des investigations complémentaires là-dessus. Mais il se trouve que comme la justice n'a pas beaucoup de moyens, les officiers de police judiciaire, ils sont passés, ils gèrent de la pénurie, et ils gèrent le dossier, ils vont préférer accorder leur priorité au dossier dans lequel, techniquement, c'est plus évident. Mettez-vous à la place des victimes, se dire que on est un dommage collatéral.
S'il manque le port.
Voilà, enfin, je veux dire, c'est une nouvelle fois. D'autant plus que dans les normes internet, il y a une RFC qui a été élevée au rang supérieur, donc BCP, c'est-à-dire meilleure pratique.
RFC,
Request for Comment, c'est l'étape de la loi d'internet. C'est un peu l'équivalent des normes ISO ou AFNOR, etc. qui dit clairement ce que doit faire lorsqu'il y a une problématique de mutualisation d'IP, et donc qui donne le mode d'emploi pour pouvoir retrouver, en disant c'est pas parce que l'IP est mutualisée qu'on ne doit pas retrouver les utilisateurs.
Que ça se perd dans la nature, voilà. Et qu'on ne sait plus qui a tweeté quoi.
C'est un texte qui date de 2011, donc voilà, qui a 10 ans, et qui n'est toujours pas traduit en droit français. En attendant, la réalité de la technique, est-ce qu'elle est ? Nous, les techniciens, on a réussi à s'organiser pour, quand bien même il y a des adresses qui soient mutualisées, on puisse délivrer les bons contenus aux bonnes personnes. Et que se dire que la chaîne judiciaire n'a toujours pas su s'adapter par rapport à ça, on veut bien comprendre qu'il faille attendre quelques mois, mais là, ça fait bientôt 10 ans. Et c'est un problème qui nous explose à la figure quand on entend dire, effectivement, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est quand j'entends des confrères ou des politiques qui disent oui, mais les plateformes ne collaborent pas, c'est-à-dire restent sur le stade du constat sans se poser la question, mais pourquoi on en est arrivé là? Et que le défaut de collaboration de Twitter ou de Facebook, c'est pas tant un défaut délibéré, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Parce que déjà, d'une part, on ne les a pas saisis efficacement et on ne leur a pas filé les informations qui permettent d'aller identifier. Parce que là aussi, c'est un grand principe du droit européen et du droit français. Les intermédiaires techniques, quels qu'ils soient, que ce soit votre opérateur, votre FAI ou l'hébergeur ou Twitch là, qui nous héberge ce soir, n'ont pas d'obligation de surveillance de l'activité de leurs utilisateurs, parce que c'est aussi un des fondements même de la liberté d'expression, de la démocratie. C'est-à-dire que on doit être libre de ce qu'on dit. Simplement, si on en abuse, on en répond devant un juge. Voilà.
Ça aura des conséquences. J'avais une anecdote. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années où j'ai été confronté à ça. Je sais pas. T'as déjà eu des à signaler un tweet qui parlait de toi ou à aller porter plainte contre quelqu'un?
Non. Alors porter plainte contre quelqu'un, oui. En rapport au numérique, jamais. Ouais. Je laisse tout courir parce que j'en ai vraiment strictement rien à carrer. Mais j'ai jamais.
Mais c'est potentiellement parce que t'as pas été encore confronté à une situation où t'aurais vraiment besoin de.
Bon relou, hein. Ouais. J'ai eu des bons relous. C'est de notoriété publique que je suis quand même politiquement plus à gauche qu'à droite. Des mecs de bonne grosse droite qui ont été me faire chier. Alors c'est pas un stade dans Usul, tu vois. Ouais. Mais des mecs qui étaient pas alignés avec moi politiquement et qui ont été me taper, il y en a plein, mais j'en ai absolument rien à carrer.
Mais potentiellement, t'as pas eu de... Je vais te raconter mon anecdote.
Vas-y, donne l'anecdote, parce que je pense que c'est des gros, là.
Non, c'est... En fait, oui. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, au moment où j'ai lancé ma chaîne, je suis tombé sur un gars qui avait une chaîne YouTube qui faisait, en gros, son concept, c'était de faire du drama, tu vois. Mmh. À une époque où c'était pas du tout aussi courant, où c'était vraiment... aujourd'hui, les vidéos drama, etc., c'est limite devenu... Bon enfant, tu vois, genre le drama c'est sympa, on aime bien, c'est un peu les gossips quoi. Alors là c'était pas ça, le but c'était vraiment de créer du contenu dramatique quoi sur des personnalités publiques. Sauf que à la différence de, je sais pas moi, un journaliste de tabloïd, tu vois, qui a plein de sources, etc.
Est-ce que c'était Max Keyes?
C'était pas Max Keyes, non. mais à la différence de ces gens-là qui ont plein de sources, etc., et qui peuvent faire du ragotage et tout, lui, le pauvre gars était tout seul, tu vois, et donc il s'est dit, bon, c'est un bon moyen de faire des vues, mais j'ai pas de matière, quoi, j'ai rien à raconter d'exclusif sur des gens connus et tout. Et du coup, il montait des dossiers de toutes pièces. Vraiment de rien. C'est-à-dire que c'était.
Il faisait dire des trucs que t'avais jamais dit.
C'était très fort. Honnêtement, d'un point de vue du storytelling et tout, c'était vraiment fort.
Ok.
Parce que, à partir d'une nuée de petits trucs. Enfin, quand la personne concernée et que tu regardais la vidéo, tu disais, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais t'as fumé quoi? Et en fait, quand t'étais une personne extérieure, ça te
paraît crédible.
Ouais, c'était crédible. C'est une histoire bien montée, etc., avec plein de choses qui se recoupent et tout. Je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit, je crois. Mais c'était genre, Micode est-il raciste ou un truc comme ça? Et il avait fait un parallèle avec un compte qu'il avait trouvé sur jeuxvideo.com qui avait publié un portfolio que j'avais fait quand j'étais petit avec un complément et donc ça voulait dire que c'était moi parce que je faisais de l'autopromo, tu vois. Enfin, bref, je me rappelle plus des détails exactement, mais comme ça, un truc monté en épingle. Et là, j'ai passé des choses, mais clairement, il dépassait une borne, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais faire les choses bien, ça va m'apprendre quelque chose, tu vois. Je vais aller au commissariat, je vais aller déposer une plainte contre X, etc.
C'était en quelle année?
C'était en 2017.
Ah ouais, c'est-à-dire pratiquement presque la préhistoire à l'échelle de l'Internet et surtout de la prise en compte de ces sujets-là par la police. Mais raconte-nous.
Justement. Ça finit un peu en queue de poisson. Alors, il a jamais été trouvé, etc. Mais il y avait une histoire comme quoi aussi il m'avait appelé, me laissé des messages avec des menaces, etc. En mode on a des dossiers sur toi et tout. Genre, j'ai littéralement rien fait dans ma vie. Tu vois. Et du coup, ce qui, là où c'est rigolo, la fin de cette histoire, c'est que je me suis foiré dans mon dépôt de plainte et je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai donné un numéro. Je pensais que c'était le numéro de la personne en question, du diffameur, je sais pas comment dire. Et genre deux mois, enfin longtemps plus tard, parce qu'on voilà, on sait ça prend longtemps, il y a moi ainsi que ma sœur qui reçoivent une convocation au commissariat. Alors, t'as compris tout de suite? T'as pas compris?
C'est pas du, t'as donné le numéro de ta sœur?
T'as donné le numéro de ma sœur.
What the fuck? T'es qu'est-ce que c'est que t'es connerie?
Elle a pas aimé l'expérience.
Les enquêtes sont à charge et à décharge, quoi. Mais voilà.
Tu m'as fait penser à un truc avec, vas-y. Allez,
non, mais c'est fini, en fait, parce qu'on est allé au commissariat tous les deux, on a dit, bah, en fait, non, c'est ma sœur, a priori, à part si la nuit, elle fait des vidéos où elle change de voix.
Mon frère, t'es là, comment ça se parle comme ça? Mais ça m'a fait penser à un truc dans l'anecdote parce que tu parlais de là, de ton cas à toi, t'as été visé toi personnellement, mais je sais pas si ça a déjà été abordé ou que ce soit sur internet, le cas des community managers. J'ai vu un article de Vice tout à l'heure là avant de venir dans le train sur le fait que les community managers pétaient des plombs parce que dès qu'une marque est embourbée dans un truc, ils se font déchirer en vite. Je prends un exemple en parallèle de mon travail sur ma chaîne, je bosse aussi pour Red Bull, je suis conseiller pour eux sur deux chaînes et je m'occupe de Red Bull Banks qui est une chaîne qui parle de rap français. Bref, et j'anime aussi les réseaux de cette chaîne-là. Et sur Instagram, on a supprimé une sur Instagram sur YouTube il y a pas longtemps, on a eu un problème avec un rappeur lors d'une émission qu'on a sortie qui s'appelle Rap Jeu, et du coup on a supprimé la vidéo alors qu'elle marchait très bien. Et il se trouve que ce rappeur fait partie de tout un crew de drill française, donc c'est les armes, les guns, on va vous tuer, ratatata. Bon, très bien, c'est ton image, tu vois. Sauf que lui, c'était plus qu'une image, c'était une vraie philosophie, tu vois. Et on supprime l'épisode, et là, ça fait un mois, tu regardes les messages privés du compte Red Bull France, mon gars, sur Instagram. Que des menaces de mort, que des insultes, que des machins. Ouais, remettez l'épisode. Alors, le rappeur s'appelle H22. Remettez l'épisode avec H22. On va toujours fumer Red Bull et tout. Lui, dans ses stories, le mec en question, menace de mort les équipes de Red Bull et tout. Je suis là, mais moi, je m'en cogne. C'est pas moi, tu vois. Moi, je m'occupe de trucs. Mais bon, moi, j'ai mon activité de mon côté. Je bosse aussi pour Red Bull parce que les mecs sont trop cool et le projet me branche. Donc moi ça va, mais des mecs de qui c'est le travail vraiment CM à pur, comment ils font si on se retrouve dans des cas comme ça? Qui est-ce qui doit porter, qui est-ce qui doit attaquer Red Bull, là dans mon cas par exemple? Bon là c'est jamais l'intention de la marque ni de moi, mais
est-ce que c'est pas des conseils, faut dire ça, faut dire la phrase, ce n'est pas sa conseil juridique.
Pas une consultation.
Mais en gros, la question c'est est-ce que c'est la marque ou c'est le CM qui attaque?
Voilà, tu montres effectivement l'emballement, c'est-à-dire que le cycle temporel sur les réseaux est... Je veux dire, on est obligé de prendre parti sous l'effet de l'émotion très rapidement. C'est forcément pour et contre quelqu'un. Il n'y a plus de nuance. C'est terrible. Et je me demande effectivement si les grands leaders d'opinion et donc notamment les marques ont pris. On a tendance à considérer le CM comme le petit job cool. Non, c'est une véritable responsabilité parce que c'est eux qui sont en première ligne et qui se prennent les shitstorms. Et toutes les études physiologiques le montrent, lorsqu'on est confronté à un déluge d'informations, notre cerveau n'est déjà pas outillé pour ça. Et sur les shitstorms, c'est exactement ça. Tu te fais, et c'est pour ça qu'à la longue, que tu sois cible de raid numérique ou community manager, tu finis inconsciemment par t'identifier, enfin à dire que c'est pour toi. Toi, même si t'as beau avoir toutes les formations, etc. Et oui, il y a une véritable responsabilité là-dessus. Alors nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que au bout d'un moment, faut être un peu cohérent. Quand on dit qu'il n'y a pas de vide juridique sur Internet et pas d'impunité, au bout d'un moment, faut y aller. Et lorsqu'il y a des problèmes, des propos qui tombent sous le coup de la loi, je suis désolé, mais dire qu'on va fumer quelqu'un, non, c'est pas de la liberté d'expression. C'est quelque chose qui relève du code pénal, qui est l'incitation au meurtre. Et ce que nous montre d'ailleurs très bien le procès actuel de Mila, où il y a encore une nouvelle fois, c'est des gamins.
C'est récent ça en plus, non?
Ouais, ouais, c'est en ce moment. Et quand on discute, enfin quand on regarde le profil des accusés, qui sont très variés, hein, c'est une erreur de croire qu'il y a une typologie du relou en ligne, c'est n'importe qui peut l'être. Enfin, je veux dire, c'est comme les automobilistes. Des personnes ultra civilisées peuvent être des criminels derrière le volant.
C'est vrai. C'est vrai.
Bah sur le numérique, c'est ça, d'où l'intérêt effectivement de faire de la sensibilisation en disant que oui, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de le penser, mais non, les idées sont critiquables, mais on va pas fumer quelqu'un parce que il se comporte, enfin voilà, et le fait que justement
il y avait eu très peu de moyens sur ces procès-là, parce que c'est vrai, comme tu le disais, lorsqu'on allait des fois accompagner des clients en commissariat sur ces sujets-là, c'était « Oh, mais vous allez pas nous déranger pour ça. » Oui, c'est que de... soit c'était de la blague de cours de récré, ouais, c'est sur Internet.
Ferme ton téléphone,
c'est fini. « Oh, vous l'avez un peu cherché, vous avez que ce qu'il voudrait. » Enfin, c'est encore une nouvelle fois, c'est comme si on disait que c'était la faute de la taille de la jupe ou du short. Non, c'est, je veux dire, quand on est cible d'un shitstorm ou en ligne ou community manager où on se prend des messages haineux, on ne doit pas laisser passer. Et notamment, je trouve que j'aime beaucoup ce que font certains titres de presse quand ils ont de leurs journalistes qui se font attaquer en ligne. Il dit mais non, on a un devoir dans le droit français, l'employeur a un devoir de solidarité, de protection justement de ses salariés à partir du moment où il y a une violence qui est psychologique. Alors c'est pas de la violence physique, mais le code du travail ne fait pas la distinction entre la violence psychologique et la violence physique. Et les shitstorms, c'est de la violence psychologique. L'employeur ou le donneur d'ordre a une responsabilité de mon point de vue, de point G, et qui permettrait effectivement de faire comprendre par quelques cas on n'a pas à menacer un community manager de mort. Non, c'est, on a le droit d'être en colère, on a le droit de le dire de façon respectueuse. Enfin, nous, ce qu'on fait, nous autres avocats, on se dit des choses terribles, mais de façon toujours très respectueuse, sans viser en dessous de la ceinture. Et que justement, cette culture du débat, malheureusement, fait un peu défaut. Alors, je sais que c'est plutôt une bonne chose, l'éducation nationale a essayé de faire développer la travail collaboratif, de respect de l'altérité, mais une nouvelle fois, on paye des décennies de déshérence des politiques publiques sur ces sujets-là qui sont essentiels.
Est-ce qu'il y a des...
L'éducation au respect, à l'altérité et tout ça.
Est-ce qu'il y a des gros enjeux, là, du coup, avec ce procès Mila? Est-ce qu'il y a des trucs, toi, tu le suis de près, j'imagine? Oui.
Bah, disons que c'est pas la première fois, parce que voilà, nous, ce qu'on disait, nous autres professionnels, c'est que le numérique, c'est un contentieux de masse. Et donc, vouloir juger le contentieux de masse du numérique avec les outils du XXe siècle, c'est aller au-devant, voilà, les problématiques qu'on voit. Que donc, on est en plus sur un sujet qui évolue, qui techniquement évolue en permanence. Et je veux dire, au même titre que sur le terrorisme ou sur les délits financiers, on a fait des juridictions qui sont spécialisées, qui permettent de former des magistrats spécialisés, mettre le paquet, et donc de faire quelque part aussi des guichets, ce qu'on appelle des guichets uniques, donc des points de quota qui permettent d'avoir l'information et des enquêtes beaucoup plus de façon plus efficace. Et donc voilà, mais ce n'est que depuis très récemment qu'on a enfin un parquet spécialisé sur le numérique là-dessus. Et donc le procès Mila et le premier résultat d'enquête de ce parquet numérique. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais une nouvelle fois, la puissance publique n'est pas venue staffer le parquet numérique français. Parquet numérique français, c'est
3 personnes.
Non, un peu plus. 6 magistrats. En temps plein. Donc ça veut dire
c'est
6 magistrats, mais en temps plein. C'est-à-dire qu'il y en a 3 parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient de permanence, les vacances, etc. Pour donner un ordre d'idée, je reprends encore mon exemple des Allemands. En Allemagne, à Berlin, ils sont 130, 140. En Espagne, ils sont 80. 6 à Paris. Voilà. Alors oui, effectivement, pour Mila, c'est un procès qui est très médiatique. Mais pour une Mila, vous avez 99 autres gamines qui n'ont pas cette répercussion médiatique, qui n'ont pas su effectivement percer médiatiquement et qui sont inconnues. Il y a un très bon livre, je ne sais pas si vous l'avez lu de David Doucet, qui ne parle pas que de la Ligue du LOL, qui parle justement du cas de ces personnes anonymes qui se prennent des cheatstorms en ligne. Je ne sais pas qui se souvient.
Surtout que là, même si c'est le.
Qui sont des anonymes et qui donc sont obligés pour les 30 prochaines années de vivre avec cette mauvaise réputation qu'on leur a collée. Enfin, je veux dire, quand on a 17 ans, on a le droit de dire de la merde. On a tous fait, simplement.
Même 40 ou 70.
Oui, mais voilà. Est-ce que ça mérite de vivre reclus sous protection policière et totalement désociabilisé?
C'est particulièrement hardcore.
On parle des anonymes, mais Mia, c'est la plus exposée. Et c'est même pas réglé pour autant, c'est-à-dire qu'elle est déscolarisée.
Dis-toi, ce qui arrive à Mila, ça arrive à des dizaines de gamines qui n'ont pas ou de gamins, notamment par exemple dans les communautés LGBT, etc., qui n'ont pas cette exposition et qui ça peut mener à des issues qui sont dramatiques.
Il y a une question je trouve intéressante aussi on va un peu dans les détails compliqués, mais on va passer rapidement dessus. Mais une question intéressante dans ce cadre-là, c'est au niveau du harcèlement et des phénomènes de meute, notamment une problématique auquel j'avais pas forcément pensé, que j'ai vu passer sur Twitter, le fait que il y a certains actes qui individuellement ne sont pas répréhensibles.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en gros, tu peux
ne l'était pas. Voilà.
Tu vas nous donner des précisions. Moi, si je t'insulte sur Twitter, Ou là, si je t'insulte dans la vie, j'ai le droit de le faire. Enfin voilà, il se passe rien. Mais avec la multiplication du nombre, ça rentre dans une sorte de nouvelle catégorie où la meute en elle-même commet un acte illégal. Oui. Mais comment on fait pour, à l'échelle individuelle, pour faire le distinguo entre, bah non, mais moi tout seul avant j'avais le droit, mais maintenant je fais partie d'une meute. C'est quoi le...
Et alors, si je peux ramplifier la question, là je vais prendre le cas de Marion Séclin, qui avait carrément fait un TEDx en expliquant « Je suis la femme la plus harcelée de France ». Et là, est-ce que en plus de l'effet de meute, est-ce qu'on peut désigner un commanditaire? Donc dans le cas de Marion Séclin, c'était Raptor Dissident qui avait quand même appelé à aller la défoncer avant de retourner en arrière. Dans l'effet de meute, est-ce qu'effectivement on va plutôt aller chercher individuellement chacun, ou si on peut distinguer un commanditaire, on va dire « Bon, mais toi mon pote, tu vas prendre pour tout le monde
». Bah, globalement, là, on a vu passer là tout à l'heure l'affaire d'un youtubeur là qui a été condamné, qui est actuellement en appel. Bah, on est un peu dans cette problématique là, parce que le gars, sa ligne de défense était oui, mais c'est ma communauté, je suis pas responsable de ma communauté. Non, je suis désolé gars, quand tu as 600 000 un paquet, t'as une responsabilité. C'est un peu comme les leaders d'opinion. Et moi je trouve que c'est quasiment criminel d'avoir des discours quand on a cette audience là qui sont totalement irresponsables, parce que ça revient à armer des personnes qui sont beaucoup plus fragiles et qui s'estiment légitimées dans leur action en disant oh, c'est pour mon gourou, je vais le faire. Mais c'est vraiment, dans ce cas là on est dans une démarche qui est quasi sectaire. Et c'est pour ça notamment que d'une part, depuis longtemps le droit en France considère que le harcèlement n'est pas propre au numérique. Simplement, c'est qu'effectivement, parce que le numérique l'amplifie, et donc pour les conséquences pour les victimes peuvent être redoutables, mais là, c'est 100 000 messages qu'elle s'est pris. C'était pratiquement un message toutes les 30 secondes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant un mois. Le cerveau humain n'est pas outillé pour pouvoir digérer cette masse d'informations. Donc les conséquences psychologiques et physiologiques sont redoutables. Donc le droit français considère l'utilisation du numérique lorsque vous faites des délits comme une circonstance désormais aggravante, et doublement aggravante lorsque la victime est mineure. Quand bien même l'auteur est mineur. Ouais. Enfin, je veux dire, l'auteur mineur, c'est pas une excuse. On part toujours, en droit français, on va partir de la victime. Ouais. D'accord ? Il y avait peut-être un trou dans la raquette qui était, oui, c'était des comportements qui individuellement valaient une petite tape sur le doigt, mais qui collectivement font des dégâts.
C'est le fait de savoir qu'on n'est pas seul.
Et Mila, justement, c'est le procès du harcèlement de meute. C'est des gamins qui, la plupart, ou des gamines, parce qu'il y a aussi des filles, même si les hommes sont surreprésentés, faut pas croire qu'il y a un genre sur le harcèlement. Personne n'est à l'abri. Mais qui n'ont pas conscience de leurs actes. Ils disaient, mais oui, je n'ai fait que réagir. Alors peut-être sous le coup de l'émotion. Oui, mais t'as réagi peut-être sous le coup de l'émotion, mais en disant que je vais te fumer, je vais te décapiter. Non. Et en relayant à tes followers, en disant, ouais, tiens, aidez-moi, regarde, je suis pourri, moi aussi j'y vais. Et ces phénomènes de meute qui ont été très bien décrits par les sociologues sont redoutables.
Ce qui est intéressant, c'est que t'as donné des exemples qui sont individuellement impossibles. C'est-à-dire dire je vais te décapiter, ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'on sait faire.
Voilà, mais nous on sait. Mais les gamins qui ont été, lorsqu'ils ont été interrogés, c'était non, mais c'était de la blague de cours de récré, je vais te décapiter.
Ouais, mais là c'est un problème d'éducation à un moment.
Voilà, mais sur le côté ce qu'on disait tout à l'heure.
Sur le trou dans la raquette. Ça, on sait faire. C'est-à-dire qu'on voit je vais te décapiter, on sait le classer dans la catégorie ceci est un.
Menace de mort.
Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe du coup, sur quels vont être les critères pour ces actes qui sont individuellement tolérés ou tolérables, mais qui, dans une note, deviennent illégaux? Est-ce que c'est le fait d'être au courant, d'être dans une meute, qui fait la différence?
Non, c'est en fait ton prochain invité vous expliquera ça bien mieux que moi. Mais ce qu'on va regarder aussi, c'est la temporalité. Okay. Voir si effectivement sur la même échelle de temps, alors peut-être pas à la même seconde, mais voilà, et on voit que il y a un effet boule de neige d'entraînement, et on voit généralement c'est fabuleux que tous ces outils de datavis de cartographie qui cartographient les training topics ou les buzz, etc., on voit que si on en était resté, si on ne s'était pas indigné, enfin s'il n'y avait pas un gros compte avec des followers qui s'étaient indignés, ça aurait été un pauvre gars qui aurait dit de la merde dans son coin, qui aurait fait marrer sa bande de potes à 10 followers, et ça serait pas allé plus loin. Et justement, c'est pour ça qu'il faut. On a tous une responsabilité sur Internet, notamment quand on a une certaine audience. On commence tous les trois autour de la table, on a un petit paquet de followers sur les différents réseaux. On a une responsabilité de pas trop dire de la merde. On a le droit effectivement de dire les choses avec notre liberté de ton, d'être scandaleux, outrancier, mais on a une responsabilité de ne pas armer nos followers pour dire bah tiens, ça y est, je me sens autorisé à aller lui pourrir la vie.
C'est des mouvements, ouais. Alors justement,
Voilà. ça me donne une transition parfaite, puisque dans la prochaine partie, on va répondre à Twitter. Ce ne sont pas forcément, c'est même pas vos tweets à vous, mais on va réagir à des tweets qu'on a sélectionnés précisément sur ce sujet-là.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jingle.
Fais péter.
On va vous envoyer ça normalement. Oh, incroyable jingle, mais même, en vrai, je les découvre en même temps.
Oh, mais ils sont trop bien. Je vais les voler.
T'aimes bien?
Je t'annonce.
On te verra des fichiers modifiés en
dos. Wesh. Trop bien. Ça ressemble vachement à un underscore. Ah, putain, faites pas gaffe.
Ils sont bien les jingles. Oui, on valide.
C'est parfait. Le premier. Ils sont beaux, mes jingles. Ah, bah oui. Bien sûr, Gavin. Ils sont magnifiques. C'est incroyable. Franchement, ouais. Je suis comme un. Faut dire qu'on teste très peu de choses. Donc, les trucs qui se passent en live, c'est la première fois que je les découvre en général. Du coup, c'est très cool. Voilà, ça, tu as commencé à nous répondre tout à l'heure. Est-ce que tu t'es déjà pris des vraies sauces, des bonnes sauces?
En fait, le problème, c'est que moi, sur Twitter, mon gros jeu, et ceux qui me suivent savent, c'est que j'adore mettre en tweet de la sauce, me retirer, à la limite, de temps en temps, venir remettre un petit peu de sauce piquante et repartir. Ça, c'est mon grand jeu. Ça, j'adore. Typiquement, tu vois, quand il y a des grosses embrouilles de communauté avec des hashtags dedans et des mecs à citer, moi, je mets pas les slash pour couper les noms et tout, je cite, je mentionne et feu, tu vois. Parce que j'aime bien que ça se rentre dedans. En fait, Twitter, vraiment, je me dis, ça sert à ça, tu vois. Sur Instagram, tu vas pas faire ça. Sur Facebook, t'as ta tante et ton daron qui vont argumenter sur les trucs pétés. Twitter, s'il y a bien un endroit où il faut se taper et un peu envoyer des idées, c'est là. Donc, j'ai un peu du mal avec ces gens qui disent, ouais, Twitter, c'est vraiment le réseau de la haine, c'est le bordel et tout. Non, c'est juste le réseau où tu tombes sur des gens qui sont pas d'accord. Enfin, à un moment, voilà, Facebook.
C'est intéressant.
Tous, ils t'entretiennent pour que tu sois tout le temps avec des gens qui sont d'accord avec toi, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, tout le monde veut te montrer ce que t'aimes. Twitter, ils s'en cognent.
C'est les phénomènes de bulles.
Voilà, c'est exactement le phénomène de bulles. Twitter, ils s'en cognent. En tout cas, elle est très facilement cassable. C'est-à-dire que tu te fais identifier par quelqu'un qui a rien à faire de ton avis. Bon, mais tu vas voir et tu vas durer de suite être dedans. Donc,
ce que tu dis, c'est que peut-être une partie de ce sentiment que Twitter est un réseau de haine, c'est juste que t'es exposé à
la vérité, tu vois.
Ce qui implique une partie aussi des réactions des politiques qui étaient jusqu'à présent habitués à ce qu'à n'avoir que des contradicteurs,
Twitter,
mais qui étaient d'accord avec eux, avec des questions qui étaient vérifiées en amont. Là, non, effectivement, c'est sans filtre. Et mais à l'inverse, t'as d'autres classes politiques dans d'autres pays un peu plus matures qui eux sortent déjà dans la rue sans filtre et qui aussi se prennent des shitstorms sur les marchés. Mmh. Ici, non, quand tu passes ta vie à ce qu'on t'ouvre ta porte et qu'on te livre, on te donne le courrier, mais que des gens qui sont d'accord avec toi, oui, t'as l'impression tu fais signer par un
Twitter, ça te fait mal.
Et donc ça explique pourquoi effectivement les politiques français sont les plus remontés contre Twitter. Alors après, bon, nous.
T'as déjà eu des shitstorms
Oui, mais ça c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est consubstantiel à notre activité. Moi, dans mon ancienne vie aussi, on n'avait aucun souci. On appliquait à la lettre le précepte de Warhol, qu'on dise du bien de toi en mal ou qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de toi, c'est-à-dire qu'on surexpose ta marque. Ouais. Ce que nous, nos petits camarades, concurrents, n'avaient pas du tout compris. On leur dit ouais, tapez sur fric, ouais, très bien, parce que comme ça, vous surexposez notre marque pour pas un rond. Donc voilà. Mais après, oui, là, on a une certaine déontologie. Alors moi. Maintenant, dans ma nouvelle vie d'avocat, on a une déontologie qui fait que oui, on peut dire des choses. Le débat n'est pas. Je te rejoins là-dessus. On n'est pas là pour discuter avec des gens qui sont forcément d'accord avec nous.
Oui.
Parce qu'on a besoin de ça. Parce que pour sortir de notre zone de confort, parce que voilà, ce qui nous fait progresser, c'est ce qui. Et puis tendre un autre miroir que celui qu'on veut voir. Simplement, le fil rouge derrière tout ça, c'est le respect de la. C'est-à-dire, on va critiquer les idées, mais on respecte la personne. Ouais. On ne s'attaquera jamais à une personne. Donc dit autrement, je comprends pas. Enfin voilà, on a totalement le droit. Prenons un exemple, au hasard, mais d'une certaine femme politique blonde, plutôt pas vraiment à gauche.
Je vois pas
voilà, donc on avait totalement le droit d'être
de critiquer ses idées, mais quand on commence à dire, mais ouais, que tes idées sont de merde, donc t'es pas une femme, et donc, du coup, et on commence à avoir des comportements de beauf là-dessus, je suis désolé, mais non, on n'a pas à laisser passer ça, parce que ça veut dire que, du coup, on invisibilise la personne par rapport à ses idées. Et ça, voilà, c'est-à-dire que si on doit avoir une certaine déontologie sur les réseaux, voilà, faire attention à qui on parle. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire de se lancer dans une shitstorm avec un ministre parce que par définition, c'est quelqu'un de puissant, il a des comités de managers, etc. Par contre, effectivement, ouais, j'attire toujours l'attention. Ouais. Attention, quand vous avez un follower qui a juste, pas beaucoup de followers, qui est un anonyme et sur lequel vous êtes en interaction, quand bien même il dit de la merde, évitez de le désigner, évitez de l'afficher parce que quelque part, votre communauté va lui tomber dessus. Et sans le vouloir, vous allez harceler.
Oula. Alors non, ça je suis pas d'accord. Je trouve des fois qu'il y en a, c'est bien qui se rendent compte, qui disent des. Enfin, dire moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des débats sur Twitter et tout. Donc des fois, je me retrouve avec, je sais pas, 10 mecs contre moi et tout. J'assume parce que je suis dans un débat qui s'oriente pas sur les mêmes idées que moi. Mais des fois, je trouve ça aussi bien quand et les mecs savent aussi quand ils rentrent dans un débat avec, par les mauvais termes, c'est comme ça, un influenceur, ce qui risque. Je veux dire que sur Twitter, je dois avoir 30 000 personnes, c'est pas énorme qui me suivent. Mais des fois, il y a des mecs qui viennent là-dedans et qui se mettent à m'attaquer directement et on n'a pas les mêmes idées, sans que je demande quoi que ce soit. J'ai 5, 6, 7 personnes qui tweetent, qui me connaissent, qui vont attaquer et limite, qui prennent le débat pour moi. Mmh. Et donc, pour moi, ça, et bon, après, si ça part en sucette, c'est pas mon problème. Je veux dire, je vais pas brider non plus les gens qui me suivent.
Moi, là-dessus, ce qu'on fait, un petit truc, c'est que. C'est ça qui est redoutable. C'est-à-dire que en ligne, on n'a pas la barrière du regard, donc on peut aller très vite. Alors que, moi, ce que je dis à personne, mais si t'étais en face de moi, est-ce que tu tiendrais ce même discours? Ah, bah non. Je dis, dans ce cas-là, on va passer en privé, et puis on va s'expliquer. Et, peut-être que, effectivement, t'avais des bons arguments, mais tu sais pas les porter. Enfin, en tout cas, tu les portes pas de la bonne façon, de la plus respectueuse. 9 fois sur 10, ça se termine plutôt bien.
Après, il y a 240 caractères.
Voilà.
Mais c'est ça.
C'est le problème des 240 caractères. Et moi, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. J'en termine après.
Pardon.
Non, mais bon, je commence à parler comme une petite mince. À force de trop les fréquenter. la liberté d'expression, c'est pas un droit opposable à être écouté. Et donc, d'autant plus que sur les réseaux, on a une fonctionnalité qui est très pratique, qui s'appelle le mute. Quand t'as effectivement quelqu'un qui est comme le pigeon sur un jeu d'échecs et tu sais qu'il y a rien à en tirer, pour ta santé mentale, tu le mets en mute et tu passes à autre chose, quoi.
Sur le cœur de la plateforme, le côté Twitter, c'est la plateforme de la haine, etc. Je suis d'accord qu'il y a le fait que ça enferme moins les gens dans des bulles, etc. Ils sont confrontés à des on est tellement plus habitué à être confronté à des autres opinions que ça peut paraître déroutant, agressif. Je me demande s'il y a quand même pas des mécaniques purement intrinsèques à comment fonctionne Twitter, qui crée aussi, tu vois, le clash, quoi.
Bah t'as 240 caractères, donc forcément tu résumes ton idée, donc tu fais des raccourcis de port. Mmh. Les autres vont dire, ah, tu fais des sophismes, et puis toi tu vas faire, c'est toi le connard. Mais tu n'en sors plus.
Il y a aussi le tweet cité.
Oui, le tweet cité, ouais.
Le fameux, et là pour le coup, par exemple, quand tu disais, en tant qu'influenceur, c'est pas notre faute si par exemple il y a un mec qui nous met une réponse et il y a tous nos followers qui vont. Mais par exemple, c'est plus compliqué dans une situation où c'est toi qui vas prendre le tweet de quelqu'un, lui répondre. Ça, il y a clairement affiché. Moi, je vois.
Ça m'est déjà arrivé peut-être.
Ouais. Mais c'est tentant.
Ouais.
C'est humain en tout cas de le penser.
C'est humain quand on a beaucoup de gens qui nous suivent.
C'est bien aussi de réfléchir et de se dire, mais voilà quelle est la responsabilité que je peux avoir. Si j'ai que 3 followers, d'accord. Mais si j'en ai un paquet. Alors. Qui pour certains n'ont pas les codes ou la retenue et qui vont se sentir légitimés.
Parce que le sous-titre de faire ça, c'est quoi? C'est de dire.
Et on est dans la manipulation des masses.
C'est de dire, vous regardez cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense des trucs nuls, je la cite et n'hésitez pas à y aller.
Ça dépend. Je vais me faire l'avocat du diable, à savoir de moi. non, mais tu vois, je crois que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, mais jamais dans. Tu reprends le tweet et tu dis, allez la défoncer.
Voilà.
C'est plutôt genre, on n'est pas d'accord, allez-y là. Expliquez parce que moi j'en ai marre. Tu vois, il y a des fois où tu passes tellement 3 heures.
La frontière est fine.
Mais non, il y a des fois, tu vois, ça m'est déjà arrivé des journées où je vais bosser, de passer 2 heures avec des mecs qui avaient des pépés royalistes et tout à me taper à répondre.
C'est gentil, les faire de l'ice.
Et il y a des moments, non, mais tu vois, des mecs qui jouent, je suis pas d'accord.
Papa,
tu vois.
Une maman, tout ça.
Et non, il y a juste des mecs qui je suis pas d'accord. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de reprendre et de dire, voilà, ça n'a aucun sens en fait. Aller expliquer, là, il y a un problème, tu vois.
Non, c'est ça qui est fabuleux.
Par contre, effectivement, je cautionne pas quand je. Ben là, il y a un très bon exemple de ça. C'est un truc, voilà, je cautionne pas là par exemple si des mecs vont répondre espèce de grosse Martinez, je suis pas d'accord, mais que des mecs aillent dire ouais c'est n'importe quoi qu'on dit ça aujourd'hui et voilà pourquoi, ça je suis chaud, tu vois.
Ouais, Mais est-ce que le... Non, je comprends. Je sais que il y en a par exemple qui s'interdisent certaines fonctionnalités de Twitter.
Après tranquille, hein, j'ai 30 000 abonnés, pas oui, 2 millions.
Mais, c'est ça exactement. Mais par exemple qui du coup vont plus faire des réponses aux tweets, tu vois, qui sont aussi vues en vrai par les gens qui
ça
te suivent.
Aussi, ouais.
Mais où t'as le contexte de ce qu'il y a des autres réponses des gens potentiellement. Enfin bref, je sais que t'as pas mal de gens qui réfléchissent à comment utiliser au mieux Twitter. De façon déontologique. Quoi.
Alors non, effectivement, nous, nos professions, avocats, on a une déontologie, mais c'est le cas par exemple pour les médecins, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les militaires et tout ça. Moi, pratiquement, chaque tweet que je fais, je me dis, mon bâtonnier, donc qui est en fait le chef des avocats dans une zone, si mon bâtonnier lit mon tweet, qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'il peut me convoquer pour ça? Et est-ce que je peux m'expliquer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui apporte au débat? Non. Ça flatte mon ego, bah non, donc finalement, souvent, bah j'annule quoi.
Ils ont essayé de lancer une fonctionnalité d'ailleurs. Alors tout le monde.
Edit.
Ouais,
c'est le plus grand scam de l'univers.
Ne jamais faire ça, parce que du coup, tu vas avoir des gens qui vont faire des tweets où ils vont dire n'importe quoi. Les gens vont répondre, puis après ils vont éditer leur tweet en mode, bah, j'ai jamais dit ça.
Oui, mais dans tous les cas, ça n'a jamais été prévu. C'est ça qui. C'est ça. Non, mais c'est ça le scam.
D'accord. Ah, une légende urbaine qu'on a.
Mais... Alors, si je... corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise, mais. Si je me trompe pas, ils ont dit dans le Twitter Premium, il y aura le edit button. Le fameux edit button, si vous n'êtes pas familier de Twitter, c'est limite devenu un mème depuis des années et des années. C'est qu'on peut pas modifier un tweet une fois qu'il est publié. Ils ont annoncé ça en mode coup de tonnerre, tu vois. Et il se trouve que, en réalité, c'est juste, si j'ai bien compris, c'est juste un delayed tweet. Donc en fait, tu cliques. Ça met une minute à s'envoyer. Et du coup, c'est un temps où tu peux réfléchir si tu veux l'enlever.
Est-ce que je suis débile?
Je veux le rattraper. Est-ce que tu veux payer 3 euros par mois pour ça?
Pour avoir une minute de réflexion.
Donc, voilà. Rassure-toi. Il y aura pas de, mais parce que sinon, ce serait dangereux. Je comprends pourquoi il le font.
Ah, bah, voilà.
Voilà, c'est
you
ça.
You can have an edition when everyone wears a mask. Non, mais ouais, pour en revenir là-dessus, effectivement, je pense qu'il vaut mieux privilégier juste les réponses aux tweets, parce que ben là, les gens qui veulent venir voir ont tout le contexte et tout. Et là, honnêtement, je peux avoir 100, 300, 30 000, 20 000 ou 1 million d'abonnés. J'irai jamais m'empêcher de répondre à des gens avec les idées que je pense, parce que je suis pas d'accord avec eux sur Twitter. En revanche, le comportement dont on parlait tout à l'heure, que j'ai déjà fait, de retweeter un truc en disant, ben, je suis pas d'accord, en fait, à l'expliquer pourquoi, voilà. Ouais. Ça, effectivement, quand tu deviens gros, ça devient un peu ghetto, parce que tu sais pas qui y a dans ta communauté. Ouais. Maintenant, il y a aussi une forme, je le pense vraiment, d'humilité là-dedans, dans la mesure où il y a des mecs, tu vois, je sais que j'ai pas toutes les clés en pour leur répondre, mais je suis pas forcément d'accord avec eux. Donc je vais dire aussi à des gens de ma communauté qui, je sais parce que c'est ma communauté, sont plutôt de mes opinions, leur dire, ben voilà, moi j'ai pas forcément toutes les clés. S'il y en a qui ont les chiffres, s'il y en a qui ont des bonnes vidéos, s'il y en a qui ont le machin, bombardez. Ouais. C'est pas force. Parce que évidemment, on pense à Twitter, cercle de laine, donc si je retweet un truc, tout le monde va aller s'amuser à insulter. Mais honnêtement, et je dis pas ça en mode j'essaie de me dédouaner de quoi que ce soit, il y a vraiment aussi des fois une volonté de dire j'ai pas toutes les clés en main.
Non,
mais je suis sûr que vous pouvez lui prouver qu'il a tort.
Et c'est justement là où ce que tu disais sur le fait que oui, comment on trouve le. Qui est à l'origine du mouvement de foule sur quelqu'un, qui est le responsable, est-ce qu'il n'y a pas un genre de gourou qui est au-dessus, qui a... C'est là où tu vois la ligne est potentiellement hyper floue. Et aujourd'hui, où, même si tu parles des très bonnes raisons, si ça se trouve, tu deviens famous du jour au lendemain, tu refais ça, et en fait, t'en as 1% des gens qui te suivent, qui vont aller défoncer la personne en tweet. Et tu vas te retrouver dans la position du meneur de meute, alors que c'est pas vraiment.
On peut en parler d'autant plus librement que moi, dans ma précédente vie, on avait une très forte communauté. Hein, l'attachement des freenotes envers Free, quand même, un peu particulier. Et
j'avais
fait un freenote. Ouais, je savais pas que ça existait.
Ça existe plus haut. Aussi.
Voilà. Et effectivement, on avait dans le tas quand même quelques gros bourrins, quoi. On a vu une illustration quand le mobile a été lancé. Les gars se sont sentis autorisés à débarquer dans des agences Orange pour tout casser.
Pire que Rof et Booba.
Et voilà.
Ouais, c'est ça.
Là, on s'est dit, on a quand même un peu une responsabilité dans tout ça. C'est vrai que dans un monde idéal, oui, effectivement, on devrait, s'il y avait une bonne sensibilisation aux usages numériques, ouais, ce que tu dis, la multitude peut faire sens, parce qu'on n'est pas omniscient, et on a dans notre communauté des personnes qui détiennent les bonnes réponses, ou parce qu'ils sont plus à jour, etc. Ils peuvent répondre. C'est le principe même d'une communauté. Il se trouve que on n'a pas encore ces bons réflexes sur le numérique, et qu'il faut être quand même très très prudent.
Donc,
moi, je comprends le besoin, mais moi, ce que je constate...
Je remonte l'anecdote juste, mais... C'est-à-dire que t'as quand même des chevaliers de free qui sont allés défoncer des magasins.
Pas free note, chevalier de free, c'est quand même beaucoup mieux.
Non, non, mais enfin, les gars, on leur dit, mais incroyable. On a nullement demandé d'aller foutre le bazar, quoi. Déjà d'une part parce qu'on reçoit après des courriers rageurs de, d'Orange et qu'on doit se confondre en, se confondant en Lexus. Enfin, je veux dire, c'est la même, alors j'y suis
et plus, là, c'est des entreprises, donc,
mais c'est comme la très bonne caricature qu'on avait vue dans Charlie où on voyait le prophète se dire, mais c'est dur d'être aimé par des cons, quoi, ou d'être vénéré par des cons. Au bout d'un moment, oui, quand on a 10 millions d'abonnés, ben, on a, statistiquement, on a quand même des relous, quoi, dans le tas, quoi, qui ont pas les codes pour bien se comporter. Et donc, quelque part, on a une petite responsabilité, en tant qu'influenceur, à, et essayer de leur dire, oui, t'as le droit de me supporter, t'as le droit de pas être d'accord avec celui qui donne l'impression qu'il m'embête, mais non, je te rassure, je suis assez grand pour me défendre, déjà. Et puis, si tu veux, débattre avec lui, t'y vas, mais de façon respectueuse, quoi, t'y vas pas en tout cas sans.
Parce que je pense, c'est, en fait, c'est la frontière à trouver, en termes de punition, faut pas non plus, et c'est là, c'est ce que je défends vraiment, c'est qu'il faut pas non plus qu'un influenceur s'empêche de parler, oui. Parce que va y avoir des débilos dans sa communauté.
Ouais, exactement. Et puis surtout, si c'est aseptisé, tu laisses le terrain aux complotistes de tout poil. Ouais, qui diront, ouais, vous comprenez, on est les seuls à pouvoir tenir un discours de vérité,
Non. Après, c'est du cas par cas, quoi. En gros, si un mec dit vraiment aller le défoncer, bon, ben là, c'est problématique. Si un mec appelle juste à argumenter, bon, ben.
Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, le critère qu'on retient, c'est la personne qui cherche à nous emmener dans le troll. Est-ce que c'est quelqu'un d'anonyme avec 3 ou 4 followers et qui, si jamais il se prend une shitstorm, n'aura pas le code pour faire face, ou c'est quelqu'un qui est puissant, qui a une armée de community manager? Bon, ok.
J'ai vu bienvenue à tous les bouigonautes.
c'est infernal.
Attends, okay, on est presque
les Mykonautes.
Les Mykonautes, mais quelle horreur.
Officiel, les Mykonautes maintenant.
Un truc qui se développe pas mal récemment, assez paradoxalement, à tout ce que je viens de dire, c'est une sorte de distance que certains veulent prendre avec les réseaux ouais. sociaux.
Ah, le rage quit.
Notamment.
Le rage quit de Twitter.
C'est ça. Notamment, alors c'est d'Insta, mais c'était Margot Robbie qui a annoncé qu'elle prenait une pose des réseaux sociaux. Je trouvais ça assez cocasse.
Oui, d'annoncer.
Oui.
Coucou, la terre entière, je me dis que je pars. Attention, je pars.
Là, c'est vraiment
mais
je pars.
La photo parce que c'est la dernière. Hein.
C'est un peu comme les youtubeurs qui font je m'en vais et deux vidéos, deux jours plus tard, je suis revenu.
Je reprends YouTube.
Est-ce que je repars vraiment?
Et du coup, voilà, un post extrêmement chalé pour expliquer qu'elle quittait les réseaux sociaux. Ça vous est déjà arrivé cette envie? Toi, tu disais que tu pratiquais l'aller-retour sur Twitter.
Moi, dans tous les cas, Twitter, je suis vraiment tous les jours. Okay. Par contre, quand je dis l'aller-retour, je mets mon truc et après, je regarde se battre et de temps en temps, je reviens dedans parce que c'est marrant.
D'accord. Oui, mais tu restes quand même consommateur. Tu t'es jamais posé la question
Jamais, je me suis posé la question de me retirer. Je te dis, la seule fois où vraiment un truc m'a gonflé, je me suis dit, bon, là, ça devient lourd, c'est dans le cas de Red Bull avec ouais. H22. C'est la seule fois où je me suis dit, là, c'est chiant. Mais moi, perso, non.
Alors, il se trouve, chacun réagit à sa façon. Bon, là, il se trouve, on a cette chance-là d'être, entre guillemets, un peu déprivilégié par rapport à l'ensemble des utilisateurs, et donc on a les codes pour pouvoir gérer des shitstorms. Mais il y a quelques petits trucs tout simples. Par exemple, moi, Twitter, c'est uniquement depuis le desktop. C'est-à-dire que, comme enfin, ça, si jamais
j'ai
une shitstorm.
J'ai eu le détergent en tête qui a paru. Quand il a dit desktop, j'ai eu le
détergent
qui a paru.
Quoi? Depuis le PC et pas depuis le mobile.
C'est pour laver les tweets.
Pas depuis le mobile. Et puis, alors sur le moment, effectivement, une fois que tu prends cette décision, tu dis, oh là, j'ai passé à côté de la dernière polémique du moment où je vais arriver après les autres et je pourrais expliquer. Puis tu dis, mais finalement, t'arrives à très bien vivre avec, quoi. Et puis accessoirement aussi parce qu'on commence à avoir des enfants qui sont en âge d'être sur le numérique. Et donc nous, en tant que parents, on doit quand même montrer l'exemple. Si on leur dit, oui, reste pas tout le temps devant ton écran quand on est à table.
Fais,
oui. Et si nous aussi on dit, oh, attends, chérie, j'ai la dernière chez Tom. Non, voilà. Et donc, globalement, ce qui nous permet de continuer à maintenir la présence, c'est vrai, je suis d'accord. À partir du moment où on a un rôle de pédagogie à mener, de porter le débat, porter la contradiction, on doit être présent. Et puis surtout, maintenant, on a des petits outils qui permettent de faire face lorsque, sans y laisser sa santé mentale. Mais oui, après, donc.
Là, c'est le côté genre publication. Et sur le côté consommation, parce que j'imagine que forcément,
les deux, ça,
tu consommes aussi Twitter. Est-ce que sur que ce soit Twitter ou les autres, vous êtes un moment passé par cette case de là, peut-être que je suis trop dépendant de ce truc.
Oui.
Est-ce que
Instagram?
Instagram, ouais.
YouTube, jamais. J'adore ça. Twitch, ça va aussi très bien et tout. Instagram, ça m'est souvent arrivé parce que c'est vraiment Instagram, c'est la vitrine de la vie de tout le monde. Et alors bon, là, j'apprends rien. Super, l'eau ça mouille. Mais ça m'est souvent ça. Par contre, ça m'est arrivé non pas à cause de mouvements sociaux de haine ou quoi, mais de me dire bon, je vais couper Instagram un mois parce que là, j'ai un gros problème de comparaison avec les autres tout le temps. Et du coup, je me dis même si ma vie elle se passe très bien, je suis très content de voir que d'autres ont en apparence une vie 20 fois meilleure. Ça me saoule de la mienne.
mienne. Donc souvent, ça m'arrivait de me dire, ouais, vas-y, c'est bon, je vais couper. Bon, au final, je l'ai jamais fait, mais bon. Okay.
Bah, moi, il se trouve que, oui, je suis présent aussi sur ces autres réseaux, mais uniquement à titre personnel. Et effectivement, avec beaucoup de détachement, quoi. C'est plus pour partager.
Mais c'est intéressant, en vrai, parce que, bon, on est pas forcément exactement de la même génération. Mais justement, j'aime beaucoup.
Moi, je suis né dans le numérique, hein. C'est comme ça que j'étais recruté. On était des geeks avant l'heure. J'étais recruté à 3 heures du matin parce que j'étais présent. Alors, il n'y avait pas Twitter, c'était les forums. C'est... Mais, avec un gars qui me dit, ouais, tu partages ta passion des télécoms, ça te dirait bien de bosser pour moi. Et le gars en question, c'était Xavier Niel.
Deviens freelance.
Voilà.
C'est ça. Mais c'était à une époque où il n'y avait pas 5 sites web qui représentaient 99% du trafic.
Mais oui, on a tous été dans une phase de naïveté, d'infobésité par rapport à tout ça, parce que
putain, tu déluge d'informations.
Et puis après,
infobésité, je la connaissais pas.
ou data bucket.
C'est quoi ça?
Quoi?
Déluge d'informations.
C'est quoi? C'est quoi data bukaki?
Attends, voilà. essaye de deviner ce que ça veut dire.
Ben non, mais data, ben un bouquetier, je vois ce que c'est. Le data, je vois aussi ce que c'est.
Bah,
c'est quand
vraiment
tu te prends des informations, voilà. Quoi, tu vois. Okay,
c'est...
Ouais,
l'image, okay, c'est bon, j'ai. J'aurais peut-être pas dû demander au final.
Ah oui, on avait dit qu'il y avait des. C'est moi à pas prononcer.
Celui-là, c'est meilleur.
Oui, mais bon, ça va, c'est un juriste qui le prononce, donc ça va. Non, mais après, oui, toute une question d'utilisation. Enfin, là, c'est effectivement totalement illusoire de dire qu'il faut qu'on revienne du temps de la lampe à l'huile. Je veux dire, quand j'entends ceux qui disent oui, mais le numérique est trop présent dans les vies, ça fait des asociaux. Enfin, j'ai l'impression d'entendre ceux qui disaient, mais regardez, les gens qui lisent le journal dans le train, ça fait dans les transports, ils discutent plus avec leurs voisins, ça fait des asociaux. Non, toute une question d'utilisation raisonnable, équilibrée avec d'autres moyens. Je veux dire, le numérique, c'est un formidable outil. Tu vois, c'est ce qui nous a permis de nous réunir ce soir dans des circonstances sanitaires qui sont loin d'être évidentes, enfin en tout cas au niveau du pays. Donc non, il faut pas diaboliser l'outil. C'est l'utilisation qu'on en fait qui doit être responsable et chacun. À sa façon de le consommer. Il n'y a pas une norme en matière de consommation du numérique.
Il y a un tweet qui est revenu là deux fois, ouais. Je pense qu'il parlait bien de ça et de l'éducation.
Oui, c'est ça, c'était par rapport aux enfants. Ouais. Après,
j'interdis à mon fils de traîner sur les réseaux sociaux. Oui, enfin, on ne peut pas les mettre sous une bulle. Oui, ouais. Peut-être chez toi, ils ne seront pas sur les réseaux sociaux, mais dans leurs potes, ils en ont qui seront sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est le même principe que. Enfin, je veux dire, faut qu'on soit sur ces trucs-là avec un discours de santé publique. On ne peut pas être dans la diabolisation à outrance, surtout quand on va s'adresser à des ados. Si tu diabolises un truc à des ados, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir y aller. Et notamment lorsqu'ils seront chez des potes, qui eux auront accès au open bar, ça va y aller.
Surtout sur des trucs qui sont prêts pour rester longtemps. Quoi.
Non, mais voilà.
Tweet suivant, est-ce que vous pourriez essayer de me dire, selon vous, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés pour le business?
Alors,
un top 3, dans l'ordre.
Bah, en vrai,
quel est ton guess?
Pourquoi j'ai l'impression que LinkedIn va être un piège? Le premier, en vrai, j'aurais tendance de ouf à mettre Twitter quand même. Parce que je sais pas, je me dis que ça tchatche entre professionnels dessus, ça se repère et tout, ça suit.
Okay.
Twitter. En deuxième, bah LinkedIn, hein, même si je pense que ça sent le piège, quoi. Et en troisième, par les professionnels.
Non, pour faire du business.
Ah, pour faire du business.
Ouais, mais ça dépend des secteurs aussi.
Ouais, mais je dirais Twitter, LinkedIn. Et en troisième, j'ai pas envie de dire Facebook, mais j'en vois pas d'autres.
C'est pas que pour discuter entre professionnels, c'est vraiment pour utiliser le réseau pour faire du business, tu vois.
Genre Slack?
par exemple, mais ça, c'est pour discuter entre professionnels. Mais genre, la plateforme en tant que telle, l'utiliser pour faire du business avec, tu vois, faire de la money.
À faire du beef, hein. Voilà. Bah alors, pas Twitter. Du coup, en premier, je sais pas, je vais peut-être m'inspirer de ton top.
Bah, nous autres avocats, non, c'est Twitter. Enfin, c'est Twitter. Ouais. Qui nous permet de nous connaître. Enfin, je veux dire, c'est.
Vous en avez quand même oublié. Vous avez oublié le premier, je vous le dis.
Facebook?
Non, on voit.
YouTube?
Instagram,
ouais, Instagram, pour la com,
Instagram. Ok, je vois dans quel sens tu dis business. Ouais. Ok.
Instagram, c'est en fait le paradis
du bif.
Du bif, quoi.
Juste tu vois le prix des OP sur Instagram.
C'est ça. Alors, on a les petits chiffres, on vous donnera pas.
Oui, non, tout dépend.
Facebook ensuite, et ensuite LinkedIn. Alors, on peut mention honorable pour Pinterest.
Twitter, plus de bif sur Twitter que sur YouTube. Ouais. Qu'est-ce que t'en fais?
La monétisation.
Ouais, mais j'avoue, c'est assez étonnant. Je me dirais que après, est-ce que t'as beaucoup
un taux
de
d'engagement en fait pour les marques sur Twitter un peu plus élevé que
est-ce que t'as beaucoup de comptes d'entreprises sur YouTube qui fonctionnent bien? Il y en a de plus en plus, mais
Red Bull typiquement.
Oui, voilà. Ouais. Mais c'est l'exception.
C'est plus rare que sur Twitter. Sur Twitter, il y a beaucoup de il y a la légende du community manager super stylé et tout. Il y a moins ça sur YouTube, je pense, en vrai.
Ouais.
Parce que les personnes s'abonnent. Ouais, c'est
ça. Non, mais en vrai, oui, c'est vrai qu'il y a très peu de marques qui se servent bien de YouTube. C'est vrai. Là, bah, en vrai, à part le cadre Red Bull, j'en ai pas en tête. Hein.
Non, je suis d'accord.
On va envoyer un petit dernier tweet. Une madame qui nous explique que dans le cabinet où elle travaille,
le cabinet où je travaille actuellement est un des meilleurs de Paris. À mon entretien, ma patronne savait déjà quasiment tout de moi. On a parlé de bagnole, Adil
et de mon seum. Elle avait eu toutes ces infos sur moi grâce à mes réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc voilà, un petit tweet pour FC le Sum. Pour le FC Sum. Mm-hmm. Exactement. Mais ouais, c'est un truc dont on n'a pas forcément parlé, mais le côté irréputation et emploi, c'est-à-dire que t'as des trucs qui peuvent remonter à des entretiens d'embauche. Alors personnellement, je n'ai jamais fait d'entretien d'embauche. T'en as déjà fait?
Mais pour des stages.
Ok.
Ça compte pas.
Et t'as jamais eu le petit stress que...
Si, mais du coup, ça m'a servi. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà YouTube qui fonctionnait. Oui. Donc c'était pour une agence de com. Je leur ai dit, salut, j'ai une chaîne YouTube qui commence à marcher. Il m'a fait une somme intéressante. Et du coup, ça avait marché. Non, ça a jamais été dans la vibe. Je vais chercher tes tweets et si un jour t'as dit que un truc puait trop ou un truc était trop machin ou un truc. Non.
Ça va. Mais est-ce que dans les tu peux pas parler forcément de tes clients, des choses comme ça?
Globalement, oui, dans les sessions qu'on fait, notamment à la destination, c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme. Alors là, ça fait un peu le vieux con qui
a
invité.
Changement de paradigme.
Moi, je suis de la génération encore où on est dans une logique de protection de la vie privée. Et nous, ce qu'on constate chez les très jeunes générations, les frontières ont vraiment évolué. Et eux, ils sont dans une logique de projection de ce qu'ils pensent être leur vie publique. Qui sur le moment c'est génial, mais typiquement quelques années après, ça aboutit au tweet qu'on a vu. Et donc du coup,
c'est un job en moins quand même, donc ça fait pas plaisir.
Ouais, voilà. C'est-à-dire nous, notre chance, c'est qu'on n'avait pas Google et Archive.
Pas savoir. Il y avait Skyblog peut-être, non.
Non, mais c'était pas historisé, c'était pas archivé, donc voilà. Ouais. Et puis surtout, on était sur des pseudos, donc Killer du 92. Et donc du coup, voilà. Donc ce qu'on a envie de dire, c'est que justement, vous pouvez raconter votre vie sur les réseaux, mais essayez de le faire de façon la plus, on va dire, neutre possible. Donc essayez de le faire sous votre véritable identité. Enfin, vous pouvez le faire lorsque vous avez les codes, mais lorsque vous débutez un petit peu dans la vie, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moyen, parce que voilà, c'est ça, ça aboutit à ça. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de dire très précisément quelle est votre ville, la rue, l'école, etc. Il y a plein de petits trucs. Enfin, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Comme par exemple dans la littérature, le pseudonymat.
Il faut y penser.
Tiens, à ça.
Moi, j'ai remarqué qu'il faut que les parents soient au courant.
Oui.
Exactement. Dans ma classe, il y en avait certains. C'était, ils avaient une irréputation ultra clean. Il n'y avait rien de trouvable nulle part. Parce que, en fait, les parents, dès le début, ils ont dit, ton nom, c'est nulle part.
Non.
Donc il y a cet enjeu-là aussi.
Non, il y a vraiment un enjeu. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation, l'éducation et les réputations. Les réputations, c'est pas un truc de business, c'est un truc qui concerne tout le monde. On a tous le droit de faire des conneries lorsqu'on est gamin. C'est comme ça qu'on progresse. Simplement, pourquoi ces conneries de gamin devraient nous poursuivre pour les 30 ou 40 prochaines années?
C'est vrai.
Et c'est pour ça que le droit, notamment en Europe et en France en particulier, est tout lié pour ça, avec le droit à l'oubli, par exemple, le droit à l'effacement du RGPD. C'est justement pour éviter qu'on vous colle une étiquette encore 20 ou 30 ans après. Et sur le moment, peut-être, ça fait sens de savoir que vous étiez le cador à la fac. Mais est-ce que ça fait sens 5 ou 10 ans après? Non. Est-ce que cette information est pertinente? Ça ne regarde que vous et votre, et si vous avez gardé les liens.
J'avais découvert un site, ça me saoule, j'arrive pas à retrouver le nom, si vous voulez m'aider, mais qui permet d'envoyer des data erase requests, je sais pas comment dire, en français, mais des demandes de suppression de vos données personnelles. Et qui permettait de le faire en volume. C'est-à-dire, en gros, tu connectes ton adresse email et il va aller scanner chacun des comptes qui t'ont envoyé des mails. Il fait le parallèle avec des entreprises, il voit que c'est des entreprises, et tu peux les cocher les uns après les autres, comme ça, il y a le petit nom, le petit logo de l'entreprise, et tu leur dis, oubliez-moi tous, je mange
d'internet. J'existe plus pour vous.
Tu sais que j'ai carrément un pote là qui est en train de monter une solution de son côté abordant en start-up pour faire ça, mais post-mortem. C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, t'as les pages mémorielles et tout, et lui, il est en train de bosser sur une solution pour que demain, tu souscris à ça dans une assurance, un truc comme ça, et dès que tu décèdes, tout techniquement se fait supprimer, tu vois.
Ah,
il y a des vraies logiques de suppression de données et des vraies questions qui se posent maintenant.
J'essaierai de vous partager ça. On vous le partagera sur le compte Twitter si on retrouve le nom. C'était une petite pépite, honnêtement, qui était pas très connue. Donc je pense
point mis, c'est pas ça?
Peut-être. Merci Gabin. on va passer à la toute dernière partie. Merci énormément, Alex.
Ah bah merci, c'était un plaisir.
De nous avoir apporté ton expertise, parce que c'est des sujets compliqués, en vrai. Et puis c'est facile de dire des bêtises. Mmh. Et donc c'était méga cool de t'avoir.
Merci à
toi. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail?
Sur Twitter, Alex Archambault. okay. La mienne. Puis après, bah, nous autres avocats, on n'est pas censé faire de la pub.
Oui, bah, voilà, c'est pas une pub, c'est pour savoir ce que
mais
tu vas.
Mais non, mais voilà, je
je savais pas. En vrai, c'est son Goodman.
Voilà. J'interagis volontiers avec les internets de France, quoi, et du monde.
Bah, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu avec nous. On va enchaîner avec Nicolas Bouchaïb qui
est bordelais.
Et exactement un bordelais qui va nous cartographie Twitch. Il va nous montrer tout ça, jingle et changement d'invité. Ça va ?
Parfait, parfait. J'étais à côté, je vous regardais. Hyper intéressant. Trop bien.
Ça va, t'as bien aimé le début ?
Ouais, super, super. C'est hyper intéressant, surtout quand tu vois le côté du droit, tu vois, où tu te dis cette espèce de zone de non-droit, quand c'est le foutoir. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de le voir, mais.
Ouais, mais justement. On s'apprête à voir des schématisations étranges, dont une que vous avez peut-être déjà vue il n'y a pas longtemps. Est-ce que. Comment je peux te présenter ? Tu es data.
On dit consultant data.
Consultant data. En fait, il y a toujours des noms incroyables dans l'IA. Franchement, c'est vrai. Hein. Il y a toujours data quelque chose.
En fait, on utilise consultant data parce que mon métier, en fait, c'est de faire du conseil, tout simplement. Ouais. Et après, on a utilisé le terme data parce qu'on veut quelque chose de global. Parce qu'en fait, si je devais utiliser les termes, on va dire, classiques, je suis un peu hybride entre un data analyst et un data scientist. C'est-à-dire, data scientist, je modélise les données, je les extrais, je fais du code, en fait. Ouais. Ça m'arrive de coder assez régulièrement. Et d'un autre côté, j'ai aussi la facette data analyst, où là, c'est culture G et on a un set de données qui est data visualisé. Ouais. Et on va essayer de trouver c'est quoi les insights, c'est quoi les infos qui en ressortent.
Tu es donc chez First Link.
First Link Bordeaux.
À Bordeaux. Donc, comme tu disais, je suis en infériorité numérique là.
On a peut-être pris le même TGV, ça se trouve.
Mais ouais, c'est parce que j'ai demandé. Vous avez
à quelle heure ce matin?
On a pris celui de midi 4.
Ah, je suis parti plus tôt.
Est-ce que tu as vu passer un visuel?
Oui, bah, tout le monde l'a vu.
Tout le monde l'a vu,
tout l'internet français l'a vu, je pense.
On va vous l'envoyer, justement. Un visuel très intriguant pour les quelques-uns qui ne l'auraient pas vu. Et tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce schéma diabolique ?
Alors là, ce que vous voyez, c'est une carte, en fait, une cartographie de Twitch sur la dernière semaine de mai. En fait, la façon dont il faut l'interpréter, c'est une photographie des viewers sur Twitch sur la dernière semaine de mai.
Okay.
Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas, pas exhaustive, dans le sens où c'est... Imaginons qu'on en fasse une sur cette semaine-là, ce sera potentiellement pas la même. Et donc ce qu'on voit ici, et ce qui peut être un peu contre-intuitif, c'est qu'on voit surtout des viewers sur cette cartographie, parce qu'en fait on a 2 millions de viewers uniques environ.
Ok. Et chaque petit point du coup.
Chaque petit point, en fait, quand on zoome, on voit des petites nuées de petits points, ce sont des viewers.
Ok.
Et ce qui donne la couleur et ce qui fait la cartographie, ce sont des liens, parce qu'en fait les viewers, on a regardé à qui ils regardaient.
Ouais.
Et en fait, en regardant qui ils regardaient, quand un viewer regarde 1, 2, 3 streams différents, ça permet de former des communautés, en fait, comme ça. Et c'est la quantité qui donne cette cartographie. Et donc, c'est un peu contre-intuitif parce que ce qu'on voit, en gros, ce sont les streamers, parce que ce sont les noms qui ressortent, mais les streamers, ils représentent 0,01% de la
donnée.
Ouais, ça, c'est qu'ils sont gros parce que c'est le nombre de viewers uniques qui sont passés sur ta chaîne qui font la taille du nœud.
La taille du nœud, ok.
Mais en termes de proportion, là, ce que vous voyez, c'est des nuages de viewers.
Ok, hyper intéressant. Alors déjà, la première information que je retire, c'est que c'est une donnée publique.
C'est ça, c'est totalement ouvert.
Donc tout le monde peut savoir ce qu'on regarde sur Twitch.
C'est ça, c'est ça. Alors en fait, c'est pour ça revient un peu avec le sujet de tout à l'heure, c'est le pseudonymat. C'est-à-dire que en fait, à tout instant, quand vous allez sur Twitch, vous pouvez voir qui est connecté au chat IRC, en fait, qui est dans Twitch. Et donc du coup, à tout instant, si vous avez le pseudo de vos potes, vous pouvez voir s'ils sont connectés sur le live que vous êtes en train de regarder. Okay. Mais la condition qu'il y a avec ça, c'est que la personne soit connectée à Twitch.
Attends, parce que t'as dit IRC là ?
Ouais.
Il y a du IRC en sous-main sur...
C'est comme ça que le chat fonctionne, en fait.
Sérieux ?
C'est ça, c'est un espèce de vieux...
Moi, je suis trop un bébé d'Internet, mais c'est en gros, c'est...
Je suis perdu.
Bah, justement, explique-nous ce que c'est IRC.
Les IRC, c'est les systèmes de messagerie, on va dire, qui ont formé l'internet
MSN
que grosso modo
c'est avec le même truc du chat.
Enfin, c'est l'idée, tu vas dire, mais je saurais pas te dire
c'est vraiment l'ancêtre du chat en direct.
Bon, bah,
en
fait, à partir de où les trucs comme ça le Wiz
c'est ça. Et en fait, ça marche vraiment sur en fait Twitch a cet aspect un peu dinosaure, tu vois, dans la façon dont il est fait, et très open data.
C'est hyper rigolo, j'étais pas au courant.
C'est ça, c'est très open data, et ce qui fait que en fait on peut récupérer beaucoup d'infos qui sont les infos vraiment données par Twitch, mais qui sont des infos qui sont toujours anonymisé, c'est-à-dire qu'on a toujours le pseudo, on n'a jamais jamais accès à une adresse mail, jamais accès à un nom, à une localisation. Nous, ce qu'on a, c'est juste des nuages de pseudo. En plus,
mais il y a pas ça. Enfin, je pose la question parce que c'est pas le cas dans toutes les plateformes du tout. Sur YouTube, il y a aucun moyen d'avoir la liste des pseudos qui ont vu une vidéo.
Ça serait il y a des trucs sur la carte qui me paraissent trop pertinents, tu vois. Genre, par exemple, dans ceux que je regarde énormément, il y a Shoachin. Et ça m'étonne zéro qu'il soit collé à Skyrose, tu vois. Pareil que Gotaga soit collé à Locklear. Enfin, en fait, là, en haut à gauche, toute la communauté jaune.
Et David Lafarge qui est juste à côté de Gotaga. Ça me fait, je sais pas pourquoi, j'aurais pas pensé.
Alors, mais c'est ouf.
En fait, ouais, ce qui m'a impressionné.
Le jaune là, c'est Warzone, ça. Non?
C'est Warzone en jaune. Et juste à côté, t'as Fortnite. À droite, les deux sont très collés. J'étais surpris de les voir aussi proches l'un côté de l'autre.
C'est ouf.
Et on en discutait un petit peu tout à l'heure avant l'émission. Ce qui m'a impressionné, c'est que bon, je pense que je parlais un peu de la technique après, mais j'avais tellement de données que j'étais obligé de travailler sur mes logiciels à l'aveugle, donc de fermer toutes les prévisualisations, toutes les fenêtres. Ça, en fait, enfin, quelqu'un qui connaît pas le logiciel, il pouvait pas savoir ce que j'étais en train de faire parce que j'avais toutes les fenêtres de fermées, je cliquais sur les boutons. En fait, j'étais un bot, j'étais un script quand je le faisais le truc. Et à la fin, j'ai cliqué sur prévisualisation, j'ai dû attendre 10 minutes, c'était très tard un lundi soir.
Ah, ça va quand même. C'est pas comme un rendu 3D.
Non, pas du tout. En fait, après, je te dis, c'est pour me rendre un mini rendu à moi. Après, pour l'exporter, ça a pris longtemps. Mais pour que justement j'affiche à nouveau les prévisualisations, j'ai attendu 10 minutes. Et après, ça m'a sorti ça. Et j'étais comme un fou.
C'est insane. Non, mais il y a un effet waouh incroyable.
Ça a sorti la carte. En plus, enfin, je sais pas si c'est coup de bol, c'est la structure de la data qui fait ça, mais ça me l'a quasiment sorti tel quel.
Tel quel, t'as pas eu à retravailler la.
C'est ça. Après, j'avais fait beaucoup de travail en amont parce que sinon ce serait illisible. Beaucoup de travail de spatialisation, beaucoup de travail sur les communautés, nettoyer la donnée, bien la modéliser. Mais une fois qu'elle est sortie, elle était incroyable. Et le lendemain, je la montre à un pote sur le Discord en disant, tiens, regarde. Et on a passé une heure et demie sur notre Discord à dire,
Évidemment, je vais te poser. Est-ce que je suis dessus?
Ah oui, tu y es.
Ce que j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à trouver.
Ouais, alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est
sachant qu'on fait techniquement, moi personnellement, je fais très très peu Twitch. Quoi. J'ai vraiment juste cette émission. Donc, en fait, je me suis dit, peut-être ça se trouve, je suis trop petit.
C'est ça qui joue pas avec toi, c'est que tu streams que sur une journée. Ouais. Et donc, du coup, mathématiquement, t'as moins de viewers uniques qui vont passer, ne serait-ce que regarder. Ouais. T'as moins de. C'est pour ça même, on m'a demandé, pourquoi Squeezie est si petit alors qu'il est si influent. Ouais. Squeezie, il a streamé que le jeudi sur la semaine. Donc, du coup, il avait beau avoir énormément de viewers.
Simultané, mais moins de unique.
C'est ça, qu'il y a eu moins de passages. Et c'est pareil pour MV, je crois qu'il était en vacances pendant la moitié de la semaine.
Ça, j'avoue.
Donc il a son nœud qui est tout petit. Ouais. Alors que MV est hyper influent dans le Twitch Game, mais comme il était en vacances, évidemment, il y a moins de passages. Et au contraire, David Lafarge, qui
était vachement gros.
Qui a été vachement gros parce qu'en fait, il y a eu l'effet un peu curiosité. Il revient sur le devant de la scène, il y a la hype Pokémon, tout le monde veut venir voir comment ça va se passer. Et donc du coup, je suis pas sûr qu'il ait tant de viewers à l'instant T qu'il soit venu le voir, mais il y a dû avoir énormément de passages de gens curieux.
Gens qui sont allés regarder par curiosité, ça, etc. Et
question, on voit que la plus grosse portion du truc, c'est quand même du bleu. Ça correspond à quoi le bleu?
Alors les couleurs ont été calculées par des algorithmes qui sont des algorithmes de modularité. En fait, c'est un moyen de créer des clusters et des communautés sur des réseaux. Mmh. Et donc, du coup, en fait, l'ordinateur automatiquement scindait les communautés. Ça, c'est ce que je trouve déjà assez ouf. C'est que, par exemple, on a vraiment des communes très scindées qui sont très précises, très nettes et sans qu'il y ait eu aucune indication humaine, en fait.
Ouais.
Et la bleue que tu vois.
Il a déduit complètement ça de.
Des viewers. Fait. C'est l'information que lui a donné les viewers. Et donc du coup, en fait, là à gauche, ce que tu as, c'est les JL qui font pas mal de GTA RP et tout. Donc là, tu vois, t'as JL Tommy qui est un peu au centre, t'as Bichou, t'as Amaru aussi qui est dans les parages. Mmh. Et il y a tous les JL. Et tu vois qu'en fait, quand tu descends le long de FIFA jusqu'à LOL, bah t'as Amine, Billy, Herbe Déter. T'as aussi, t'as par exemple, t'as Joël.
Bah, LOL, c'est le vert, etc. J'imagine. Kameto.
C'est ça. Et là, t'as Kameto qui rejoint avec OTP et ça fait. Ça, en fait, on va dire un peu sa communauté est cool.
C'est quoi le petit truc tout jaune en bas à gauche, qui est donc en bas à gauche de LOL? Merci la régie.
Alors, vous ça, c'est ça, FIFA.
C'est pas la régie, c'est Gabin.
C'est Gabin.
Merci Gabin.
Merci Gabin, beau gosse.
Ça, c'est FIFA. C'est FIFA. Donc, dedans, tu peux retrouver plein de youtubeurs qui font que du FIFA. On voit qu'elle est vachement en retrait.
Ouais,
que c'est des gens qui regardent beaucoup de FIFA et que t'as ce qu'on appelle des bridges, qui sont des acteurs qui, en fait,
qui font le pont avec d'autres communautés,
c'est ça, qui font le pont. Et donc, du coup, là, t'as Rocky et t'as surtout Bruce Granek qui vient faire le pont avec la communauté un peu Twitos.
C'est vraiment incroyable ce que t'arrives à déduire.
Ouais, bah, en fait, ça, c'est ce qu'on utilise au quotidien dans ma boîte, du coup, c'est la théorie des graphes. Et en fait, on fait des cartos comme ça parce que, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que ça nous offre de la compréhension, en fait.
Parce que quand tu zoomes, c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est tous les viewers. Et en fait, les cartographies nous offrent de la compréhension.
C'est infini, en fait.
Tu connais pas Twitch, on te donne ça. on te l'explique en une demi-heure. Mmh. Ça y est, t'es un collab sur Twitch, tu sais qui fait quoi.
Et même bien mieux que des gens qui ont suivi potentiellement Twitch depuis hyper longtemps.
Mais moi, j'en ai découvert, il y a des tweetos qui m'ont dit, ah ouais, mais regarde celle commu, t'avais pas vu cette commu, machin, et des trucs. Moi, je suis Twitch depuis un petit moment.
Ça donne une vision globale d'un sujet.
Du coup, je reviens sur ta question. Micode, tu es, alors si on zoome au niveau de Magla, on a Micode. Là,
incroyable.
T'es juste.
Ah ouais, j'aurais jamais trouvé tout ça. J'avais cherché un peu, mais vraiment là, c'était trop dur.
Et d'ailleurs, je crois que, alors j'espère que je vais pas brusquer Gabin, mais je crois qu'on a une petite surprise pour toi, Micode, par rapport à ça. On a fragmenté, en fait, j'ai fragmenté mon dataset pour ne garder que ton audience. C'est-à-dire que, en gros, moi j'ai un dataset avec tous les gens qui sont venus te voir.
Pour voir précisément qu'est-ce que vous qui a regardé ce live, vous regardez, c'est ça?
Ouais, en gros, c'est ça. Vous êtes passé la dernière semaine de mai sur le live de Micode. Donc, vous êtes dans ma base de données, dans la liste commu Micode. Et je suis allé voir, en fait, les gens qui ont regardé Underscore le dernier mercredi de mai, qui sont allés voir d'autres.
Okay.
Et donc, du coup, on a la cartographie du comportement de la
commu Micode. Domingo encore qui domine.
Trop intéressant.
Et donc, voilà, là, ça, c'est, en fait, c'est la même cartographie, sauf que j'ai filtré tous ceux qui ne sont pas venus te voir.
Ok.
Et là, tu...
Donc
là,
on a l'impression qu'on est hyper famous.
Il y a des gens qui ont été voir le stream Gotaga.
C'est toi le plus gros nœud parce que
logiquement,
c'est toi, tu as 100% des gens qui sont sur cette cartographie sont venus te voir.
Donc et vous ensuite, regardez beaucoup Domingo. Okay,
ouais, il y a pas mal de gens. Le stream Gotaga.
Alors moi, il y a un truc que je vois quand même surtout, et peut-être que vous l'avez pas remarqué, c'est qu'en fait, ça nous montre aussi à quel point le Twitch game est minuscule. C'est-à-dire que c'est les mêmes gros noms qui reviennent, tu vois. Genre bon, évidemment, Domingo, le stream Gotaga. Mais je veux dire, aujourd'hui.
Ah, il y a pas mal de hard disk. Hein.
Ouais. Mais tu vois, on entend que c'est quand même assez pas facile, mais je veux dire, ça se fait d'avoir les 100 000 sur YouTube, tu vois. Donc des youtubeurs qui commencent à avoir de la marge, il y en a quand même pas mal. Twitch, ça reste quand même
pas
20 fois
de gens,
plus fermé, quoi, tu vois. Et moi, je trouve que un truc qu'on voit vraiment, c'est qu'en fait, on se rend compte que Twitch, c'est dur de ouf, et parce que c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent.
Alors, en fait, par rapport à ça, déjà la carto, elle est ciblée sur le top 100 FR. Déjà, tu vois, déjà, il y a un filtre naturel qui se fait. En fait, je suis passé par l'API et j'ai récupéré le top 100 à tout instant du Twitch FR. Et donc, du coup, de ces 100 personnes-là qui étaient les premières en francophone, je lui ai demandé de qui les regarde. Et donc, déjà, tu as ce premier filtre-là, mais qui, en fait, est le même filtre que dans la vraie vie, parce que est-ce que le viewer moyen va aller page 2 des recommandations de Twitch, tu vois. Donc, il y avait ce truc-là. Et
okay. C'est intéressant ce que tu as dit, juste. Parce qu'on n'est pas forcément rentré dans la procédure pour arriver à ce résultat-là. Si les gens chez vous avez du temps à tuer, vous voulez obtenir des résultats de ce genre, potentiellement, vous allez peut-être galérer si c'est pas votre métier, mais sait-on jamais, d'accord? C'est quoi les quelques étapes par lesquelles il faut passer?
Alors, en fait, c'est vraiment très classique du métier de data analyst, data scientist. En fait, dans un premier temps, il faut récupérer la donnée. Ouais. Donc là, on passe par l'API.
Ok, donc ça veut dire que Twitch a prévu le fait qu'on peut avoir l'information des viewers.
C'est ça, on peut avoir ces données-là, elles sont ouvertes, ça limite le nombre de requêtes qu'on peut faire, mais c'est largement suffisant pour avoir tout ça.
Okay.
Donc ça, c'est pas vraiment la partie complexe. En fait, je pense qu'on le verra aussi après, on fait sur d'autres réseaux où là, c'est cette partie-là la plus dure. C'est-à-dire que c'est récupérer la data. Sur Twitch, c'est pas le cas, c'est vraiment la partie la plus simple, on passe par les API, on lui demande le top 100 à chaque instant, et on lui demande les viewers de chacun des streamers.
Chacun des top 100.
C'est ça, on fait un peu le multi-threading pour histoire d'accélérer le bordel, parce que sinon ça prendrait trop longtemps.
Ouais.
Et en fait, on va dire que c'est comme si tous les quarts d'heure, on avait une photo du top 100 de Twitch, okay. Et c'est ça qu'on va venir ensuite travailler. Donc là, j'ai ce gros jeu de données, j'ai fait l'extraction. Il y a la partie qui est très très importante et une des plus dures techniques du point de vue de la méthodo, c'est le nettoyage, l'uniformisation, etc. Retirer la data dont on n'a pas besoin, additionner la data, par exemple, imaginons que moi je suis allé voir tous les quarts d'heure qui regardait un streamer. Il ne faut pas que j'ai 15 nœuds pour que 15 soit le même viewer. Donc là, il faut faire les agrégations, supprimer les doublons aussi. Parce que j'avais deux machines qui tournaient. Donc du coup, j'ai dû.
Bon, tu peux récupérer les deux fois la même
ça.
Info.
En fait, je récupère deux fois la même info et ensuite je filtre les doublons pour être sûr de ne pas avoir de trous.
Okay.
Tu vois, genre, il y a toutes ces petites astuces-là qui sont un peu en fait, le cœur du métier pour s'assurer de ne pas avoir de biais. Parce que là, on fait des belles data visualisations. Mais si demain quelqu'un vient me dire, ah, mais il y a un gros trou dans ton dataset, ça ne vaut plus rien. Quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, il y a la data visualisation. Alors ça, c'est fait avec un logiciel qui s'appelle Gephi, que je vous encourage à aller télécharger. C'est un logiciel libre qui est gratuit. Et donc, du coup, vous pouvez y accéder et essayer de faire des graphes avec. C'est un logiciel en fait qui permet d'analyser les réseaux. Voilà, c'est un logiciel qui peut être utilisé à la fois d'un point de vue scientifique, d'un point de vue recherche en sciences humaines. Nous, on fait des cartographies d'Internet avec, mais c'est vraiment étudier les réseaux, des nœuds, des liens. Et on travaille avec ça. Et là, ça a été la partie la plus compliquée qui d'habitude est la partie même peut-être un peu fun, on va dire, parce qu'on fait la data visualisation. Ouais. Là, c'était trop dur parce que, en fait, GFI n'est pas fait pour avoir des aussi gros graphes.
Ouais.
Par exemple, on avait beau augmenter la puissance de, changer de processeur, mais sur des grosses machines, GFI devenait pas plus puissant, en fait. Il est pas fait pour
pour gérer des très très gros volumes.
C'est ça, il est pas fait pour gérer les gros, il a pas été optimisé, en fait, pour gérer de la grosse donnée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CTRL Z. Ça, hard disk serait content de savoir que le logiciel libre n'a pas de CTRL Z. Et donc c'est un logiciel qui est assez austère, on va dire, au niveau du design et de la prise en main, mais qui est, c'est un bijou du point de vue de la méthodologie et de ce qu'il fait. Il permet de spatialiser les graphes, de les afficher, de faire des calculs statistiques. Donc ça, c'est mon outil au quotidien. Et donc là, ça a été un peu compliqué parce que justement, on l'a poussé dans ses limites, des rendus qui ont duré
question
plus.
Question hyper bête. Vas-y. Vraiment très très bête. Mais c'est, qu'est-ce que ça te sort? Parce que là, je vis dans le genre dans le chat qui demandait l'URL du site web, etc. Parce que c'est vrai qu'on a presque l'impression que c'est un site dans lequel on peut se balader.
En JPEG.
C'est un PNG.
J'étais prêt.
N'importe quoi. Donc ça te sort une image.
Alors en fait, ce que ça me sort un rendu logiciel que je pourrais exporter en format GFI, on va dire en format réseau, et ensuite j'ai différents choix pour l'exporter. Donc là, j'ai pas mal de choix. Je pourrais l'exporter en PDF, par exemple. Je peux l'exporter en SVG, je peux l'exporter en PNG, etc. Le problème, c'est que les trois quarts des types d'export ne marchent pas sur ce type de.
Alors, ça sont visibles parce qu'à mon avis, un SVG avec autant de points là.
Tout à fait. J'ai essayé cinq fois où c'est pas allé jusqu'au bout et une fois où c'est allé jusqu'au bout. Quand je le lance, Chrome est à genoux et une fois qu'il arrive à dire un mot, il me dit la ligne numéro 8 400 000 est corrompue. Je ferme le fichier. Et c'est donc du coup, t'es là. Et le SVG, ça aurait été vraiment la solution ultime, mais là, on est parti sur un PNG qui fait 45 000 pixels par 45 000 pixels.
Okay.
Donc, en gros,
c'est pour ça qu'on peut quand même pas mal zoomer dedans.
Bah, tu sais combien poster, il fait 12 mètres par 12 mètres.
Tu sais combien il y a de personnes représentées là-dedans?
Ouais, il y a 2 millions.
C'est tout petit,
2 millions de personnes.
Il y a 2 millions de personnes.
C'est vertigineux, franchement, quand tu zoomes et que tu vois les micro-trucs.
Là, t'as 1 900 070 dans le genre de viewers et t'as 1973 streamers. Et ça me paraissait pas évident. C'est qu'en fait, je prends le top 100 à l'instant T. Mais dans le top 100, c'est pas 100 personnes, c'est même pas 200, c'est 1970 personnes, le top 100 sur une semaine sur Twitch.
Okay.
Il y a 1970 streamers, je savais même pas qu'il y en avait autant en France, qui passent au moins une fois
qui
par le top 100
200,
sur Twitch.
C'est ouf.
Et en fait, j'ai fait des petites courses.
Après, ça se trouve à 4h du mat.
C'est ça, mais il y a un moment, j'ai même eu le top 100 où j'avais pas suffisamment de streamers, j'avais pas 100 streamers.
Il n'y avait pas 100 streamers simultanés en France.
Je crois un jeudi à 4h du matin. J'ai un graphe. Bon, j'ai pas tout publié là, mais sur Twitter, je crois que je l'ai publié. Où en fait, on a les courbes et on voit les jours les plus où il y a le plus de viewers et on voit qu'à un moment, il y a un trou en fait et c'est qu'il y avait plus, assez de. Enfin, il y avait pas 100 personnes dans le top 100.
Tu dirais que c'est donc ça s'appelle la data visualisation, c'est le fait d'essayer de voir et de pour interpréter un nombre colossal de données.
C'est ça.
Inintelligible. Si tu l'ouvres, même Chrome n'arrive pas à le lire. Donc.
Le dataset qui est en CSV, au bout d'une demi-heure de scrap, tu peux plus l'ouvrir dans Excel. Parce qu'Excel te dit, vous avez atteint la limite. Je vous ouvre en gros le premier million de lignes et le reste sera pas chargé. Après, sauvegardez pas, sinon vous perdez ce qu'il y a sous le million de lignes. Donc au bout d'une demi-heure de scrap, Excel déjà, c'est plus une solution.
Ouais. Ah, c'est fou. Alors, du coup, dans la data visualisation, tu dirais que c'est quoi les gros enjeux, quoi? Parce que mine de rien, comme tu disais, si t'as un problème dans ton dataset, tu peux tirer des mauvaises conclusions.
Ouais, alors en fait,
c'est rigolo, c'est Twitch, mais une entreprise, elle peut prendre des grosses décisions.
Alors en fait, nous, justement, c'est notre métier, c'est d'aider les entreprises à mieux connaître l'environnement et à prendre des décisions avec la data. Donc l'objectif, c'est de faire de gens qui ne connaissent pas un sujet des experts. Ouais. Même des fois, c'est de faire de gens qui sont experts sur un sujet, de leur montrer, mais vous connaissez pas tout, parce qu'en fait, avec la data, on arrive à lire énormément de contenu, à avoir énormément de données visualisées en très peu de temps. Donc ce qui est hyper important, en fait, c'est la méthodologie, parce que comme tout ça, c'est fait par des algos, c'est travaillé par ordinateur, mais chaque action est décidée par un être humain et on a des biais à chaque microseconde d'utilisation. On se dit, chaque action, en fait, peut emmener sur potentiellement 5 biais. Et donc, ce qui est important, c'est de faire attention sur tout le long de la chaîne, de pas les utiliser. Par exemple, quand tu vas aller récupérer ta donnée, tu vas pas pouvoir aller récupérer toutes les données qui existent dans l'univers. Donc, du coup, tu vas forcément générer un corpus. Et quand tu génères un corpus, il faut que tu aies des règles très précises et que tu n'aies pas des biais de méthodologie. Imagine, tu fais une analyse sur Twitter, les comptes où tu vas aller extraire la donnée, il faut que tu fasses attention à bien prendre des comptes qui soient, par exemple,
représentatifs de la population.
Par exemple, on analyse des requêtes booléennes et on fait des requêtes booléennes qui sont hyper longues pour être sûr d'avoir tous les tweets, de ne pas avoir, par exemple, qu'une partie du Twitter et de te dire, alors c'est ça que les gens pensent. Et en fait, ce que pensent 20% du Twitter français.
Okay.
Donc et puis il y a même compliqué. Dans la data visualisation, ne serait-ce que les couleurs. En fait, les couleurs sont pas mises par hasard. Parce que si tu mets certaines couleurs, tu peux avoir des biais. Par exemple, le rouge, le vert, Ça se trouve, si tu mets une communauté en rouge, une communauté en vert, il y a des biais psychologiques où tu vas dire, ah, c'est les méchants, c'est les gentils. Donc souvent, on évite de trop utiliser ces couleurs-là. Enfin,
c'est hyper intéressant.
Tout le long de la chaîne, la data visualisation, faut faire très attention parce que même, par exemple, ça, je trouve que c'est aussi hyper, c'est assez fou parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est la taille des nœuds. Je vous ai dit, la taille des nœuds, c'est le nombre de viewers uniques qui sont passés sur un stream. Mmh. Ça, c'est une donnée que j'ai choisie personnellement. J'y ai même pas vraiment trop réfléchi, vu que c'est sur un truc, on va dire, assez
ludique. Si tu la changes, en fait, il peut y avoir pas Domingo un énorme,
c'est ça.
Mais tout à fait. Micode, par exemple.
Bah, tout à fait,
c'est pas probable.
Si la taille du nœud dépend des gens qui sont passés sur le live de Micode, comme la deuxième.
Oui, bah du coup, forcément, ça sauve.
Et en fait, là, ce que j'ai pris, c'est ce qu'on appelle le degré. C'est-à-dire que plus un nœud est gros, plus il a de liens qui sont attachés au nœud. C'est le degré. Mais j'aurais pu par exemple prendre le degré pondéré, ou dans ce cas-là tu prends le poids des nœuds, le degré pondéré. C'est par exemple quelqu'un qui a regardé pendant 3 heures Domingo aura un lien qui sera beaucoup plus épais et plus
et là
fort.
Potentiellement ça peut changer complètement
en fait là tu regardes le watch time, tu regardes plus l'audience unique, tu regardes le watch time.
Surtout que tu vas avoir des traits qui vont être épais comme ça. Si un mec il a regardé vraiment Domingo toute la semaine, tu vas avoir un trait énorme qui se bat de mes deux.
Alors ça, pour la data visualisation, au début quand je l'ai sorti, j'avais gardé le poids des nœuds et ensuite les nœuds je les ai tous mis fin parce que sinon ça faisait un pâté, là, vraiment on voyait rien. Donc là tous les nœuds sont, ils ont une échelle, tu vois, il y a des nœuds qui sont plus épais que d'autres, mais l'échelle est restreinte, on va dire, parce que sinon c'était, on va dire, beaucoup moins lisible. Mais en fait, il y a vraiment, par exemple, parler de MV, je pense que MV, par exemple, si on avait regardé le watch time, il aurait peut-être eu un nœud plus gros parce qu'il a peut-être une audience qui reste plus longtemps
plus
sur
longtemps,
ses
etc.
Et c'est un peu comme sur YouTube, au final, t'as le watch time qui est une
qui est hyper importante. Si tu regardes que les vues, t'as qu'une partie de l'information. Tu n'es pas venu, les mains vides, nous voir. Tu es venu avec une petite surprise juste avant de vous la montrer. On a eu l'idée d'un petit concept, c'est que à la fin de ce live, on va faire un raid sur une chaîne. On n'a pas encore choisi qui. On va faire un raid et on va voir avec ta visualisation si on observe une variation.
Merci.
On va faire un avant-après, voir qu'est-ce qui se passe très très concrètement. C'est une expérience grandeur nature. On est comme ça, on fait des expériences grandeur nature. Et on va voir. Je sais pas trop.
Donc t'es à 2000, je crois, quand je suis
un truc comme ça. Et donc, on va voir si il y a peut-être des traits qui s'affermissent. Ça va être trop bien.
Je me dis, l'idée, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller chercher quelqu'un qui, de base, est à l'opposé de la carto pour voir si vous allez vraiment accrocher les nœuds l'un à l'autre et voir si vraiment ça vous allez bouger.
Si on va faire
en fait
une traversée de la map Twitch.
C'est ça, parce qu'en fait, la position des nœuds est aussi calculée avec des algos de spatialisation.
Je vais lancer ma chaîne, je vais lancer un
live. Let's go.
Il y a aussi une spatialisation qui est calculée, c'est-à-dire que les nœuds sont pas des positions au hasard, c'est-à-dire que plus de nœuds sont proches et plus ils partagent des communautés proches. Donc un raid, en plus, sur un, on imagine, sur un petit streamer, là, tu vas vraiment venir attirer son nœud.
Ah, grâce à être très intéressant. J'ai très hâte, donc restez jusqu'à la fin, on va faire ça ensemble. J'ai mes réflexes de youtubeur qui reviennent.
Du coup, les raids sont pris en compte là-dedans.
Ah oui, tout à fait. Ouais, vu que l'audience va passer sur le live d'une personne, il suffit que tout le monde se connecte à l'IRC.
Il y a des gens qui lancent leur stream apparemment en ce moment même.
Let's go.
On passe à enfin la surprise que vous attendez tant. Qu'est-ce que tu nous as concocté?
Alors, je vous ai ramené deux cartos différentes, mais l'idée c'est la même, c'est de voir comment évolue en fait comment évoluent les communautés sur Twitch au fil du temps, parce que là ce qu'on voit c'est une photo d'une semaine de Twitch, mais on ne sait pas comment ça peut évoluer. Donc d'un côté, il va y avoir une visualisation qui montre sur la semaine comment évoluent les cartographies, et surtout, elle m'a beaucoup été demandé, la cartographie de la ZLAN, pour en fait voir comment, quand il y a un gros événement comme ça, comment fluctuent les communautés, qui va regarder la ZLAN, qui va en avoir rien à faire, qui va rester dans son coin, qui au contraire va être un peu ambivalent entre les deux. Et en plus, elle est assez rigolote, donc je pense qu'on va
voir
ça. Alors qu'est-ce qu'on voit en premier?
Envoie Gabin.
Ok, alors ça c'est la timeline tout d'abord. Alors celle-là, je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment ouf, c'est de voir comment ça évolue. Alors là, ce que vous voyez, c'est le matin.
Okay.
C'est-à-dire que là, on prend le Twitch de 7h à 13h. C'est le matin sur Twitch. Et qui sont les gens qui sont influents sur ce créneau-là? Parce que je ne sais pas s'il y a des leftos ici, mais le Twitch le matin, ça n'a rien à voir avec le Twitch de l'après-midi ou même du soir.
C'est marrant que Show, il soit énorme.
Ouais, bah Show, en fait, avec Saxy le matin.
Je mate ça en bouffant. Donc
énorme. C'est énorme. Ils font des 5000, 6000 viewers le matin. Donc, ils sont énormes. On voit que la communauté Warzone ressort particulièrement. On a la commu FIFA un peu à gauche, qui est petite, mais qui est présente. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est Tonton, qui est en plein centre et qui est énorme. On a vraiment l'impression que c'est le top streamer du matin. Et en fait, quand on regarde sur la carte globale, Tonton, c'est quand même un gros streamer, un gros nœud, mais on lui donnerait pas cette importance-là. Et en fait, Tonton, c'est vraiment un des top streamers le matin, toujours énormément de viewers, communauté très très constante et tout. Et donc ça, c'est sympa de voir que là ici ça ressort. On a Kameto avec Bibi, avec la Bibi Tinal. Et voilà, ça c'est Twitch le matin. Et l'idée, c'est qu'on peut reproduire ça sur toutes les temporalités. Là, par
exemple, les évolutions. Ouais.
Ça, là, vous avez Twitch le lundi. Twitch le lundi, Gotaga plein centre. Et on voit que la carto, bon, la carto est assez similaire à la finale, je trouve celle-là. Mm-hmm. Mais quand on va sur celle du mardi, Gabin, si tu m'écoutes, celle du mardi, on voit que Domingo vient se greffer au centre parce que mardi, c'est popcorn.
J'avoue.
Bah oui, putain.
Et j'avoue, là, ah bah,
du coup, Ponce, il mange aussi.
C'est ça. Et du coup,
tout popcorn mange.
C'est ça. Et là, t'as Domingo qui est vraiment centré. Et si on regarde le mercredi, on avait du League of Legends sur Twitch. Et donc, du coup, là, c'est Kameto.
Ça nous intéresse de savoir ce qui se passe le mercredi.
Ouais. D'ailleurs, sur le mercredi, on te voit beaucoup mieux sur la carto. Si tu regardes, je crois que c'est à côté d'AlphaCast qu'il est un peu en haut à droite. Le Nomicode est beaucoup plus gros. T'as beaucoup moins besoin de zoomer. Je crois que c'est toujours AlphaCast, à côté d'AlphaCast, ouais, Magla, Jill. Et je crois que t'es juste à côté. Donc, on n'est plus obligé de zoomer autant que.
Il y a Ava aussi. Ouais.
C'est ça. Et là, du coup, mercredi, il y avait du League of Legends. Boum, ceux qui vont au centre, c'est League of Legends. Et on peut continuer comme ça. Et ce qui est intéressant pour finir, je pense, c'est le dimanche. Parce qu'il y avait le Big Nine de Domingo.
Ouais.
Il a fait courir des streamers.
Ouais.
Et, tout.
Ouais.
Là, et là, énorme aussi, Domingo, plein centre. Il rapproche les communautés. Le jeudi, Squeezie.
Ouais.
On en a parlé tout à l'heure. Le jeudi, il est central. Il est énorme, mais il n'y a que le jeudi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas si gros. Et du coup, voilà.
OTP LOL, il y avait dû avoir un truc.
Vendredi, ouais, pareil. Je crois qu'il y avait le League of Twittos le vendredi. Ouais.
En vrai, c'est dingue comment ça se voit de fou.
Ouais, c'est
David
fou.
Lafarge, bah, il a dû faire un pack opening Pokémon.
Il y avait du, devait y avoir un drapeau feu dedans. Donc
et ouais, du coup, le
et donc,
dimanche.
Du coup, le dimanche, il y avait. Il y a même pas mis dimanche. Il y a le Big Nine, et là,
voilà.
Voilà, là, il n'y a plus personne qui vient challenger.
Putain, incroyable.
Ça. Et du coup, on voit que c'est assez amovible en fonction des événements. Et avec la Zilan. Ça, on va voir que la carte ne se ressemble plus.
Je serais trop curieux le jour où t'as un PC de la NASA de faire ça sur un an.
Oh, mais tu sais que c'est envisageable. On va lancer les scrappers ont été mis sur pause.
Est-ce qu'il va s'en remettre?
Ouais, c'est plutôt GFI. Est-ce que GFI va réussir à encaisser ça? Parce que la data, c'est juste qu'il faudra un bon disque dur, tu vois.
Après, est-ce que tu peux pas faire des moyennes par semaine qui elles-mêmes sont ingérées?
Mais en fait, mon intuition, j'ai aucune certitude parce que c'est quelque chose de nouveau que je fais là, mais mon intuition, c'est que au final, sur une période de temps long, ça sera pas si intéressant que ça, parce que je pense que ça, au bout d'un moment, on va avoir quelque chose de représentatif.
Ouais,
et je pense que par exemple, un mois du Twitch FR, c'est représentatif de ce qu'il y aura sur l'année, à moins que ça bouge. Et je trouve que c'est peut-être plus intéressant de
faire mois par mois.
C'est ça, mois par mois. Même là, on va voir la Zilan.
Envoie-nous la Zilan si tu l'as dans.
Et là voilà.
Zerator, mais ouais.
Et là, on voit le King Z.
D'ailleurs, il était pas si gros hein, sur la générale, je trouve.
Non, mais parce qu'il avait pas énormément streamé.
C'est quoi la lueur d'espoir à droite?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est du StarCraft, je crois. Enfin, c'est un SC2. Je sais pas qui est ce streamer, mais ça finit par SC2. Donc
il y a une fuite.
Ouais, y a une fusée, mon gars.
Et là, on voit du coup tous ceux qui le regardent. Et en fait, ce qui est hyper impressionnant, si Gabin, tu peux aller entre Domingo et Zerator et zoomer à fond. Là, du coup, on a Zera qui est hyper central parce que c'est lui qui caste, évidemment. Et alors, vas-y, zoom à fond entre Domingo et Zerator. Voici un pâté de viewers.
On dirait.
Vous voyez le blanc là? C'est des noms de viewers qui sont agglutinés, pris entre Domingo et Zerator. Donc là, on a vraiment un nuage de noms.
Mais on dirait un peu l'horizon des événements, un trou noir, le truc.
Denver SC2, le streamer.
Denver SC2, je ne connais pas du tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, la carto, elle est vraiment écrasée quoi, par Zerator, mais qu'on pourrait tracer un trait à peu près au niveau de Kameto, et ce serait un trait de dire qui, en fait, a été relativement, pas indifférent, mais a continué sa vie Twitch, sans être trop impacté par ça. Et on voit les communes centrées autour des jeux, c'est-à-dire qu'on a Warzone, on a Fortnite, on a FIFA en jaune à droite, on a les slots qui sont un peu plus haut. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que la commu JL en fait est hyper fidèle à JL Tommy et à ses streamers.
En gros, même quand il y a Zilan,
même quand il y a Zilan, même quand il y a même quand ils ont deux équipes qui participent à la Zilan, parce qu'ils avaient deux équipes, en fait ils regardent quand même que par le biais de leurs streamers. Donc ça, c'est hyper intéressant quand tu regardes les communautés, de voir comment ils interagissent,
les comportements.
C'est ça, et de voir qu'en fait là ils sont hyper alors là il y a David Lafarge qui ressort, il est en bleu parce qu'il a joué à Warzone avec Shaw. Et donc du coup il est venu se faire agripper par la commu,
il est devenu bleu. C'est vraiment fascinant,
par la commu.
Franchement, on peut passer
c'est
des
dingue. On en parlait en off et tout, moi je trouve ça incroyable pour Twitch, parce que Twitch c'est marrant et tout, mais par exemple tu vois, moi ce qui m'intéresserait de dingue, ça serait Twitter, YouTube et Insta.
Twitter, ça t'intéresserait?
Twitter, allez, on envoie la Twitter.
Je commence à prendre la confiance.
Tu veux, mon gars, j'ai toutes les infos sur
tout pour toi.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Ce que vous allez voir, c'est vraiment un truc qu'on a fait pour la première fois très récemment. On a cartographié Twitter francophone sur une journée. Là, vous avez tous les tweets qui ont fait au moins une réponse, au moins un like ou au moins un retweet. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les tweets qui n'ont pas eu d'interaction. Mais là, tous les tweets qui ont eu d'interaction sur le dernier mercredi de mai, ils sont là.
Fais voir si j'ai dit des conneries, Joël.
Bah, en vrai, je pourrais les retrouver.
Qu'est-ce que j'ai dit le dernier
mercredi de mai? Personne n'a réagi.
Tu as dit le dernier mercredi de mai?
C'était le dernier mercredi de mai, je crois que c'est le 26.
26.
Et donc, du coup, là, c'est Twitter. Et pizza sans. Et en fait, on voit.
On va pas tarder.
Ah bah ouais, c'est pour ça, Gabin, qui sait. Le 26 mai?
Le 26 mai, ouais.
Est-ce que j'ai dit des conneries? Oh! J'ai rien mis. Il y a le 25 et il y a le 29, j'ai vraiment.
Non, bah, tu n'es pas sur la carte. Tu es sur la carte, tu es en vert, un peu en bas, là, entre, un peu en dessous de YouTube, il y a un peu du vert. Mais en fait, ce qu'on voit sur Twitter, c'est que c'est vraiment le bordel.
C'est des mots-clés?
Là, ce qu'on
ou
voit.
Des
c'est
des comptes.
C'est les comptes. C'est les comptes qu'on tweetait.
Pourquoi enfin, YouTube a autant de.
Apparemment, c'est les mentions qu'on voit là.
Ah.
Si, c'est, en fait, ouais, si on voit les gens qui sont
tout
mentionnés.
Pour les problèmes techniques.
Ah, peut-être. C'est il y a beaucoup de problèmes techniques là quand même.
En fait, ce qu'on voit là, c'est les mentions. Et du coup, on voit qui sont les personnes qui sont le plus mentionnées sur Twitter une journée dans. Une
ouais,
journée
mais en vrai, dans le monde. Pour de vrai, ça se trouve, il y avait une panne.
Ah, mais c'est
même on voit qu'il y a Vianney, par exemple. Pourquoi Vianney est aussi grand que. Je sais pas qui, ça se trouve.
Il y avait une accueil Vianney de ouf.
C'est ça, c'est qu'il a sorti un truc ou quoi.
C'est là où tu vois aussi que Cyril Hanouna était PMP ou quand même une force de frappe non négligeable.
Ce qui est hyper impressionnant en fait ici, c'est qu'on voit que le cœur vraiment de Twitter, c'est l'actualité. Et donc du coup, c'est beaucoup les politiques qui ressortent parce que c'est eux qu'on vient mentionner.
Chiappa,
mais on
Macron.
Parle vraiment énormément d'actualité sur Twitter.
Emmanuel Macron.
C'est ça, boum, au plein milieu, avec tout le gouvernement autour, etc., les médias autour.
C'est quoi la bulle violette
en vert en bas,
en bas,
c'est le foot.
Okay.
Et c'est-à-dire que par exemple, il y avait, on voit qu'il y a l'interiste qui est hyper gros parce qu'en fait, c'est un tweetos qui parle de foot. Et il a une coutume, c'est que quand les joueurs de l'équipe de France arrivent à Clairefontaine, ils notent leur outfit et leur flow.
Okay.
Et donc du coup, tout le monde était là à le mentionner. Ouais, quand est-ce que tu sors tes notes et tout. Et donc du coup, là, c'est l'actualité d'une journée sur Twitter.
Mm-hmm.
On a aussi d'autres pays, c'est-à-dire que tout en haut, t'as le Congo. Tout en haut, en orange, je crois, non, en violet. Voilà, c'est le Twitter congolais.
Ah oui, c'est francophonie. Et tu vois le l'isolement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de porosité avec
c'est
les.
C'est ça. Un peu comme sur Twitch où tu sais, t'as des espèces de cônes qui ressortent. Ben là, t'as des pays.
Qu'est-ce que
c'est ce truc ? Alors ça, mystère de ce que c'est. J'ai pas eu le temps d'encore de trop me pencher là-dessus, mais c'est illisible Twitter comme ça. Nous, quand on travaille sur Twitter, on fait des cartos qui sont beaucoup plus propres parce que justement on filtre nos corpus, on traite la donnée, on va cibler des requêtes, des comptes, des messages qui sont intéressants. Là, on a vraiment la requête, c'est le, or, la, or 1, or 2, or OK, et tout ça avec les 30 premiers mots les plus utilisés du vocabulaire. Et voilà, là, on l'a spatialisé avec plus de gravité pour qu'elle soit plus lisible. Okay. Et donc là, un peu planète, un peu galaxie. Et donc du coup,
je suis obligé de m'imaginer genre discuter, te voir discuter, je sais pas moi, avec un grand-père, tu vois, et lui entendre te dire cette phrase là. J'ai ajouté de la gravité sur la data visualisation.
Ah ouais.
C'est dur d'expliquer le métier à la famille.
Mais comment
tu fais? Là, en fait, justement, les algorithmes de spatialisation sont basés sur des algorithmes sur les lois de la physique, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme si t'avais des atomes avec des liaisons chimiques. Et donc du coup toi t'es là et tu mets gravité x 3 et t'as le graphe il fait
et les trucs se font,
c'est quoi tous les petits ponts blancs qu'on voit là, on voyait des petits, voilà ça là, c'est quoi tous ces petits ponts,
c'est genre un mec qui a mentionné un autre mec, c'est des gens qui parlent entre
eux. Okay.
Ça c'est des conversations sur Twitter,
c'est ouf,
c'est trop bien.
Et en fait on a tout autour de la carto parce qu'ils sont pas attirés vers le centre parce qu'ils sont ils sont indépendants, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont pas de couleur non plus. Et ça c'est tout ce que tu vois, la couronne autour de la carto, c'est des gens qui papotent.
Ok. Et on en a un peu parlé en off, mais et ça avec YouTube c'est pas gérable, parce que moi ce qui m'intéresserait de ouf ça serait voir YouTube, tu vois.
Alors en fait on est sur un métier qui est assez compliqué dans le sens où on se bat contre les GAFAM. C'est-à-dire que eux, ils ont infinité de data. Ils te donnent, genre, par exemple, l'API de Twitter, quel scandale. Les gars t'autorisent à 15 tweets par quart d'heure à aller scraper. Genre, ça, tu vas le faire avec l'API, t'en as pour toute ta vie, tu vois. Et donc, du coup, nous, on est obligé de passer par des méthodes qui sont 100% légales, mais qui vont à l'encontre
des conditions d'utilisation.
Même pas forcément des conditions d'utilisation, mais du bon vouloir, parce que c'est marqué nulle part de vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que même limite, justement, on joue avec ce que Twitter ne sait pas faire, tu vois. Ouais. Mais en gros, on va dire le robinet à data est fermé pour quasiment toutes les plateformes. Et nous, pour faire ce genre de travail, on a besoin d'accéder à la data. Et on a des moyens dérobés, et ça peut être très compliqué.
Scrapping.
C'est du scrapping, c'est ça. C'est des scripts qui viennent se faire passer pour des utilisateurs, qui vont venir lire de l'information. Ensuite, on parse pour récupérer la data. Et en fait, par exemple, YouTube bloque tout. Mais il y a quand même des moyens de récupérer de la data, parce que par exemple, sur ça, je te disais, c'est pas à l'encontre des conditions d'utilisation, parce que par exemple, si tu as scrappé des commentaires d'une vidéo, tu récupères que les pseudos, bah, au final, c'est comme si tu les avais lus et que tu les avais consignés à la main, tu vois, c'est juste que t'as pas le temps de le faire. Et donc, du coup, on a des pistes, on a des.
Et du coup, ça vaut pas autant que des vues, mais potentiellement, tu vois, ça pourrait t'aider.
Bah, c'est ça, en fait, l'idée.
Tu peux regarder au lieu d'avoir les gens qui regardent d'autres contenus, pourrais voir les gens qui commandent.
C'est exactement ça.
Ouais, mais c'est, les commentaires, c'est tellement peu représentatif des gens sur YouTube, tu vois. Ce qui serait intéressant, ce serait limite de, ben, mais c'est impossible, tu vas me dire, du coup, à cause de ces questions.
C'est pas corrélé à ton audience, mais ça peut être, corrélé à ce que regarde ton audience, tu vois.
Ouais, peut-être. Non,
mais. Ah bon, c'est compliqué.
En fait, je dis, c'est peut-être représentatif, tu vois, un peu comme un sondage où tu vas pas aller interviewer, demander à toute la France son avis pour les élections. Là, tu peux dire, c'est globalement représentatif de.
Ouais, mais je pense que ce que tu dis, c'est que c'est une sous-population qui est justement pas forcément représentative.
Je pense que là où ce serait vraiment intéressant, parce que t'as l'air de dire, c'est que c'est impossible, c'est par exemple quelqu'un qui a regardé une vidéo sur la chaîne de Michael, genre, après, quelle autre chaîne il va aller consommer une vidéo? Et du coup, tu verrais des ponts de ouf. Par exemple, je sais que entre, du coup, je sais pas, Ajax et quelqu'un qui fait aussi du bricolage, tu verrais des ponts de porc. Ouais. Moi, tu verrais des trucs de ouf avec Léo Duff et Cyrus, tu vois. Enfin, donc, c'est trop intéressant.
Je pense que ce que tu verrais au final, ce serait l'algorithme YouTube. Je pense qu'au final,
c'est ce qu'on disait.
Je pense que tu verrais le cheminement de l'algorithme de YouTube en disant.
Bah, nous, on est chaud, hein. On veut bien.
Et par rapport à ça, on fait d'ailleurs des cartos de Spotify. Il y a une plateforme qui le fait en ligne où tu mets le nom d'un artiste et ça te sort la carto. En fait, de l'artiste. Et du coup, tu vois l'algorithme Spotify. Si tu écoutes un artiste, qui va te conseiller, en fait? Et t'as cette vision-là.
Vous pourrez aller voir ça. Je saute sur l'occasion, pour vous dire que n'hésitez pas à aller voir cette, Mikot, c'est Maître Yoda. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai des petites oreilles. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Il est tard. Et vous abonner pour regarder les morceaux de rediffusion si vous n'avez pas le temps de d'être avec nous le mercredi, ce qui est tout à fait compréhensible, et vous pouvez aller voir ça et écouter ça en podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre?
Alors moi sur Twitter, c'est là où je vais poster toutes mes découvertes, c'est-à-dire mes data visualisations sur tous les sujets, donc c'est @NicolasBCHB.
Trop bien.
Vous pouvez aussi suivre le compte de ma boîte First Link, où là vous aurez en fait la vision de ce que font tous les consultants, parce que je suis pas seul. Donc du coup, il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines, etc.
Est-ce qu'on pourra publier le schéma? Sur le compte.
Ah, tout à fait. Bah, de toute façon, là, c'est
cadeau. Vous aurez tout le loisir de.
t'as quand même Locklear dans ta.
C'est parce qu'il y a mon frère qui est en panique le jour où j'ai sorti la carte. Il m'a dit, ah, il y a Locklear qui en parle. Et en fait, avec un collègue, on a rigolé. J'ai dit, je vais la mettre en bannière.
La
et
fierté.
Comme il me regarde, en fait, je me suis dit, ça fait vraiment
Ah oui, j'avoue,
j'imagine trop le. Oh, les gars, regardez, on est là, les gars, c'est incroyable.
Mais je crois que d'après ses mots, il a dit, c'est une cartographie pour voir qui est la plus grosse. Voilà, c'est la vision Locklearienne de.
Cette façon de voir les choses. Où est-ce qu'on peut te suivre, Simon?
Bah moi YouTube hein, essentiellement.
Tu Twitch pas encore?
Bah si, je Twitch, mais vraiment pour m'amuser, donc je crois qu'on doit être 150-200 viewers. On a fait un pic à 1000 après un raid, mais
allez-y
sur
voir
ma chaîne Twitch,
allez suivre
Simon Puech. Et puis sinon sur YouTube, c'est là où je fais le plus de trucs, une vidéo toutes les 3 semaines à peu près.
Trop fort.
Voilà,
allez voir ça. Nous, on va aller manger des pizzas et on se dit à très très bientôt. C'était l'émission la plus longue qu'on ait jamais fait, honnêtement, mais c'était passionnant. Faudra voir comment on arrive à optimiser tout ça. T'as bien aimé l'expérience?
J'ai très beaucoup et énormément aimé. Très vraiment très bien.
J'espère que vous avez aimé ce format nouveau, du coup le upvote. J'ai même pas précisé. Ouah, mais je suis vraiment trop con. C'est parce que pendant le jingle, on a eu un changement d'invité. Mais du coup, upvote, c'est le nom de ce format. L'idée est de mettre en avant quelqu'un ou un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Toute ressemblance avec une autre émission est fortuite. Et du coup voilà, on fera ça à l'occasion quand on a un coup de cœur, un projet vraiment, quand on a un crack quoi qui fait comme je te sauce en live. Mais
merci
voilà, et nous on va faire un raid juste après ça.
Ah oui, d'ailleurs,
ben oui,
t'as choisi sur qui?
Non, on va voir ensemble. De toute façon, il y a une loupe de fin, donc on aura le temps.
Du coup, restez si vous voulez être sur la carte.
Exactement, restez. Bah, exactement, peut-être en zoomant, peut-être on vous verra, pas sûr. On vous dit à la semaine prochaine, mercredi 20h. C'était Underscore. Salut.